en direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ah, on est heureux de revenir auprès des gens. Et aujourd'hui, on est aux Pyrénéennes, à Saint-Gaudens. Saint-Gaudens, la capitale du Comminges. Et les Pyrénéennes, je vais vous le présenter, c'est le salon de l'agriculture de toute la chaîne des Pyrénées. Et pas que les Pyrénées françaises, il y a même les Espagnols et les Andorrans qui exposent. Et je peux vous dire que ça se termine dimanche et que si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. C'est ici qu'il faut venir, c'est ici que ça se passe. Les vraies voix aujourd'hui, avec une vraie voix qui n'est pas franchement locale,
non.
Philippe Bilger. Bonjour mon cher
Bonjour,
Philippe.
Bonjour mon cher Philippe. Accueil extraordinaire dans le salon de l'agriculture, à tout point de vue.
Absolument magnifique. Un accueil comme ça, on ne s'en remet pas. Et puis on n'a que des vraies voix locales aujourd'hui. Je ne vais pas l'appeler monsieur le directeur, même si c'est le directeur du salon Les Pyrénéennes. Bonsoir Christophe Laforgue.
Bonsoir les Philippins.
Et agriculteur. Bienvenue sur Sud Radio pour Les Vraies Voix. Et on va en débattre ensemble jusqu'à 19h20.
Bienvenue à vous, hein, ça fait plaisir d'avoir Sud Radio dans le Sud. Un vrai plaisir de vous avoir parmi nous.
Ah ben un vrai plaisir d'être parmi vous. Et alors on avait le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger. On a un deuxième président.
Lequel est trop hein. En général, on ne supporte pas qu'il y en ait deux.
Je ne vous dirai pas ce que je pense. Le président des Pyrénéennes, Jérôme Adou, il est également agriculteur. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir les Philippe.
Alors ben c'est bien, il y a Jérôme, Christophe et deux Philippe. Alors ça vous va ça a bien démarré ces Pyrénéennes hier ?
Oui tout à fait, nous avons, nous attendions pas à avoir un succès tel que celui que nous avons eu depuis les deux jours. Et c'est vrai que pour nous, c'est une fierté d'accueillir autant de public.
Alors, le menu des vraies voix, je vous le donne. À 17h30, faut-il un plan pour la ruralité ? Parce que la ruralité, ici, on la vit. Vous avez vu, il y a quelques jours, le président de la République est allé à Marseille. Il y a 1,5 milliard qui sont sortis de son chapeau, comme, je ne sais pas, 1 euro de sortirait de notre poche. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un plan pour la ruralité ? Parce que quand on roule, on voit dans les petits villages les postes qui ont fermé, les boulangeries qui ont fermé, les boucheries qui ont fermé. Et pourquoi ne pas parler de la ruralité ? Faudra-t-il un plan pour la ruralité ? D'ailleurs, tiens, est-ce que ça va être un des sujets de la présidentielle, la ruralité ? Et comme on est ici, en plein milieu de la France rurale, une magnifique France, on a les montagnes des Pyrénées en face de nous, évidemment, on va en parler, ce sera notre premier débat. À 18h15, le gouvernement a dévoilé un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. On en parlera avec un patron et Emmanuel Lafond, patron du cabinet de recrutement Sparterrache, et Pierre-Édouard Magnan, président du mouvement national des chômeurs et précaires. On va confronter les deux avis suite au plan qui a été dévoilé aujourd'hui par Elisabeth Borne. Et enfin, à 18h30, notre deux grands débats, faut-il adapter le pass sanitaire région par région ? Oui, pourquoi ? La question se pose a priori même à l'Élysée. Pourquoi garder un pass sanitaire dans une région où il n'y a plus de Covid ? Ça va, vous êtes en forme, les vraies voix ?
On est en très très grande forme. Hein,
c'est... Et vous, Jérôme ?
Ah, super.
Super, vous êtes prêt à rentrer en mêlée ?
Tout à fait.
À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur ?
Vous êtes radieux.
Vous êtes d'accord ?
Moi, je pense mais que... le tour de force, c'est qu'il est radieux quand il est en colère.
Alors aujourd'hui, oui,
il
je vais vous l'avouer.
Il nous fait le coup chaque soir.
Je vais vous l'avouer, les vraies voix, je suis particulièrement heureux. Ça fait une éternité. Ça fait un an qu'on n'était pas revenu en émission en Occitanie. Évidemment, je vais...
Fantastique.
On vous a même mis la musique.
Fantastique.
Merci.
Vous pouvez chanter ?
Nous ne sommes pas trop des chanteurs.
On est en roue déjà.
Vous dites ça parce que Rémi André a dit dans la météo qu'il faisait beau mais que ça allait empirer,
ouais,
c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Pourtant, je suis sûr que vous avez de beaux organes. Les Pyrénéens chantent bien en général. N'est-ce pas, Christophe ?
On a trop chanté hier soir déjà, on est un peu enroué. On a attaqué fort hier soir.
Et ce soir, c'est très fort, c'est avec le concert de
Nadao. Voilà.
Absolument, qui va venir chanter ici à Saint-Gaudens, chanteur que tous les Pyrénéens connaissent. Oui, je suis très heureux parce qu'on vient ici, aux Pyrénéennes. C'est un salon, accrochez-vous bien, qui fait 25 000 mètres carrés, c'est-à-dire l'équivalent de 25 terrains de rugby. Et il y a tout le terroir, qui ça va de la côte catalane à la côte basque, en passant par le Béarn, la Bigorre, l'Ariège. On a de tout, de la charcuterie, des desserts, on a même du café du Comminges. Oui, bon. Alors évidemment, même malgré le réchauffement climatique, il pousse pas encore ici, c'est pas prévu.
Non, pas encore, Christophe.
Pas d'actualité.
Pas encore, mais par exemple, c'était un régal. Et puis ce qu'on aime, c'est l'accueil des gens qui viennent nous voir. Alors, on a vu plein de personnes nous dire, bienvenue les vraies voix, on aime Sud Radio, on vous écoute. Un auditeur nous a même dit « Ma femme est dans les Landes aujourd'hui, elle n'a pas pu venir, elle s'appelle Nicole. Salut Nicole, n'est-ce pas Philippe ?»
Mais vous avez anticipé, c'est un scandale. Bah, je voulais le
écoutez,
dire.
Salut Nicole, à ma place, allez-y.
Il vous l'a volé.
Je voulais adresser un salut très amical à Nicole des Landes. Je l'ai promis à son mari et j'espère qu'il ne m'en voudra pas parce que ça n'est pas une tentative de séduction vulgaire. Hein.
Alors, Nicole a eu de la chance, elle a eu deux saluts pour le prix d'un. Alors, vous aussi, je pense que vous êtes de bonne humeur, les vraies voix ici.
Très
Philippe Bilger.
Formidable. Ça m'arrive parfois, mais
c'est-à-dire
là,
tous les 36 du mois.
Je suis d'une totale bonne humeur et je sais que ça va durer durant 2 heures au moins. Et puis peut-être qu'il y aura un dîner après. On ne cesse de me parler de côte de bœuf, que sais-je.
On a plein de surprises pendant 2 heures et là, c'est nous qui allons donner le tempo.
Vous aussi, vous êtes de bonne humeur, monsieur
oui,
le président.
Tout à fait.
Jérôme Adou.
C'est une fierté de vous accueillir sur notre salon. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, quand nous avons la chaîne des Pyrénées face à nous, on ne peut être que fier d'être sur ce territoire.
Et comment est venue l'idée de faire connaître ce salon? Il est né il y a 37 ans, c'est ça, en 1984.
C'est ça, c'est issu d'éleveurs bovins qui ont voulu mettre en avant leur filière.
Oui.
Et en se rassemblant, ils ont réussi à créer, à accueillir des concours qui sont nationaux. Et puis toute l'agriculture s'est liée autour et il y a eu cette émulation extraordinaire. J'ai encore des frissons quand j'en parle, quand on voit tous les partenaires et qui nous ont réunis, qui font aujourd'hui que ce salon fait 25 hectares et énormément d'émulation sur la chaîne des Pyrénées.
Alors justement, parlons agriculture. Vous êtes tous les deux agriculteurs. Alors le président en plus est éleveur bovin.
Voilà, tout à fait, éleveur bovin et je suis éleveur blonde d'Aquitaine.
Ah ça, donc, c'est une excellente bête à viande, la blonde d'Aquitaine.
Tout à fait, et en plus nous avons la fierté de recevoir le concours national blonde d'Aquitaine sur notre salon.
Ah, c'était un régal. Et que de la blonde d'Aquitaine, pas d'autres productions?
Ah non, tout à fait. Nous avons aussi le national de la Gascogne des Pyrénées, un concours aussi top 100 race laitière Primostein, et toutes les espèces qui sont représentées sur le salon sur différents pôles.
Effectivement. Et Christophe, lui, c'est des animaux un peu plus petits que les bovins.
C'est les poules, moi.
Oui.
Mais les poules qui font des œufs, hein.
Oui.
On est d'accord.
Vous en avez Philippe. Combien?
J'en ai un petit millier.
1000.
Oui.
Ah oui, c'est déjà pas mal.
Ça commence, ça occupe, ça fait autant d'œufs à ramasser le soir, donc on ne s'ennuie pas.
Et Christophe, vous ne dites jamais ma poule à votre adorable épouse.
Si, c'est la seule et l'unique.
Elle est adorable.
C'est la seule et l'unique, elle
nous
est adorable.
Nous avons eu la chance de la rencontrer tout à l'heure.
Alors, pour que vous le sachiez, Philippe Bilger est le coq de la basse-cour Sud Radio.
Non, malheureusement, non. Non,
j'ai bien compris, je fais vraiment attention. Grand séducteur, Philippe.
Mais alors, vous faites aussi un produit extraordinaire, mais là, vous en avez plus de 1000, le miel, parce qu'on a dégusté, enfin, j'ai eu la chance de déguster le miel de Christophe dans du fromage blanc des Pyrénées au dessert ce midi et il est divin. C'est du miel de châtaignier, c'est ça?
Oui, là c'était du miel de châtaignier, mais à l'image de tous les apiculteurs de la chaîne des Pyrénées, les Morlières, les Sarniguais, vraiment l'apiculture c'est une tradition ici et le miel c'est une vraie passion. Vous savez, l'apiculture c'est comme l'élevage bovin, on y met un petit doigt, le bras et puis ça devient passionnel.
C'est un miel liquide, très épais ou pas?
C'est un miel châtaignier qui cristallise beaucoup moins vite que les autres, mais les miels cristallisent tous à un moment donné.
Ah, non, c'est bon, il y avait un peu de l'arsène, mais c'est reparti, vous inquiétez pas.
C'est pas une nouvelle censure, c'est pas
j'espère, oui. Non, voilà, ça cristallise beaucoup moins vite que le reste, mais c'est un peu plus fort en bouche, mais c'est très agréable.
D'accord.
Vous êtes bien dans les vraies voies, il est 17h12, on est en direct des Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Si vous êtes en Occitanie ou même ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, venez, c'est vraiment un endroit à voir. Vous avez 25 terrains de rugby, d'exposition... Et alors, je ne veux pas vous dire à quel point ça fait frétiller les papilles quand on déguste tous les produits qu'il y a ici. Alors, on ne peut pas les déguster tous, mon cher Philippe Bilger, si on tombe dans l'indigestion.
Non.
Ça vous dirait qu'on se retrouve dans quelques instants pour le tour de table de l'actualité?
Ah ben avec plaisir.
Eh bien, écoutez, on se retrouve dans quelques instants avec nos vraies voix locales, Christophe et Jérôme. On peut les applaudir parce qu'on est en public. Et il y a pas mal de gens qui nous regardent ici au pied du bus de la Dépêche du Midi. On salue nos amis de la Dépêche. Et on se retrouve dans quelques instants pour les tours de table de l'actualité.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix en direct de Saint-Gaudens avec Philippe Bilger, qui est en fait le pape des vraies voix, on peut vous appeler comme ça.
Mais
et deux vraies... Comment?
Non, rien.
Et deux vraies voix locales, Jérôme Adou, président du Salon Les Pyrénéennes, et Christophe Lafort, directeur du Salon Les Pyrénéennes. Et mon cher Philippe Bilger voulait nous faire un tour de table de l'actualité qui va faire plaisir ici, puisqu'on est en pays d'Ovalie.
Initialement, je voulais parler de sujets. De sujets dérisoires, bien sûr. Je voulais parler de la race blanche et puis du pape François. Et puis j'ai choisi d'aborder un sujet très important, le rugby. Et ça tombait très bien puisque j'ai appris tout à l'heure que cet accueil extraordinaire du Salon de l'Agriculture m'a tout de même laissé une blessure. Parce que hier soir, vous avez reçu le meilleur demi de mêlée du monde et je n'étais pas là. Je parlais d'Antoine Dupont. En réalité, je me suis toujours demandé pourquoi je ne supporte pas l'univers friqué du foot et pourquoi j'ai toujours aimé l'univers très chaleureux du rugby. Notamment, pour un détail, lorsque les rugbymen marquent un essai, ils se tapent dans la main, ils ne s'empilent pas comme des gens qui sont malades tout à coup. Et donc,
ils s'empilent dans les rucks.
Voilà, je préfère le rugby parce que c'est plus simple, c'est plus chaleureux, c'est plus vrai. Et mille excuses, mon cher Christophe, malgré votre présence, je ne parviens pas à oublier que je n'ai pas vu Antoine Dupont hier et que malheureusement, il n'a pas pu nous téléphoner ce soir.
C'est dommage parce que vous avez d'habitude plus souvent un jour d'avance qu'un jour de retard en termes de vision. Mais c'est vrai, Antoine, c'est ce que vous avez dit, c'est la simplicité des joueurs de rugby.
Bon. Alors, je vous coupe, il est originaire d'un village à quelques kilomètres d'ici, Castelnau-Magnoac.
Oui, tout à fait. Antoine est originaire de notre territoire. Il est originaire du club de Castelnau-Magnoac et il fait la fierté de son village. Et son frère sera présent ce week-end sur le stand du Port Noir de Bigorre.
Ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous disiez, c'est cette simplicité qu'on retrouve chez les joueurs de rugby. Bon, on est mal placé pour en parler avec Jérôme, puisqu'on est deux anciens joueurs, qu'on a dû que nos enfants, puisque nos deux enfants à chacun jouent au rugby, parce qu'on se retrouve dans ces valeurs de simplicité, de tradition, sans faire aucun amalgame. Le rugby, c'est vraiment l'école de la vie, et c'est pas pour rien qu'on appelle ce slogan comme ça, parce qu'au-delà de jouer avec un ballon, on apprend aussi des valeurs qui sont exceptionnelles. Mais on n'est pas là pour faire la promotion du rugby, du coup je m'arrête.
Ah, on peut en toucher deux mots, parce que Saint-Gaudens, c'est quand même une ville qui a vu de grands rugbyman, ou juste à côté, Pierre Berbizier,
tout à fait.
Vice-champion du monde 87, entraîneur de l'équipe, troisième de la Coupe du Monde 95, et qui, si elle n'avait pas été victime d'un arbitrage scandaleux en demi-finale, aurait été au moins... Du France-Afrique du Sud de 95, je m'en suis parmi, William Servat.
Alors si vous voulez, Philippe, Pierre Berbizier de Lannemezan.
Lannemezan, c'est juste à côté.
Et les frères Martinez sont originaires du Saint-Gaudinois.
Du Saint-Gaudinois.
Donc si vous voulez, des grandes familles sont originaires des différentes villes de notre territoire.
Du point, oui, absolument. Il y a aussi le jeu à 13 auquel on joue ici.
Tout à fait.
Le rugby à 13 maintenant, ça a été rebaptisé. Saint-Gaudin, c'est une grande ville de rugby à 13.
Ah bah oui, tout à fait, qui sont en élite.
Tour de table de l'actualité de vous, les amis. Vous êtes tous les deux agriculteurs. Je rappelle que vous êtes président et directeur du Salon Les Pyrénéennes, où on est en direct avec les vraies voix. Vous êtes les vraies voix du jour. Et vous voulez nous parler d'une actu dont on parle de plus en plus et à laquelle vous êtes très attachés, les fameux circuits courts. Jérôme ou Christophe ?
Bon, Christophe en premier.
Allez, Christophe en premier.
Messieurs les volaillers, tirez
vous
les premiers.
Vous parlez du circuit et notre du ami court.
Oui, voilà, du court. Maintenant, on va pouvoir vous parler du circuit court et de proximité parce que pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que la crise sanitaire nous a fait prendre conscience, pour ceux qui ne l'avaient pas encore pris, qu'on vit dans un monde qui tourne à l'envers avec des produits qui arrivent de l'autre bout du monde, alors que, comme disait Christian Aznar, le président des Nationaux Gascons, son voisin le sollicite pour acheter de la viande pendant une crise sanitaire mondiale, alors que depuis toujours il a à côté de chez lui de la viande disponible. Donc la crise sanitaire a fait prendre conscience à tout le monde qu'on peut fonctionner en local, en direct, mais sans faire plus que ça, ça relève du bon sens. Le bon sens paysan, c'est manger à côté, c'est avoir des produits qui sont de proximité et profiter et aussi avoir cette relation humaine autour de l'alimentation. On a parlé tout à l'heure des produits. Je vous ai dit qu'on a fait un repas 100% local. On savait d'où venait le fromage blanc, d'où était le miel, d'où vient le jambon, d'où vient le vin, puisqu'on parlera après de vin.
Absolument. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, évidemment. Ça c'est pour le CSA.
Tout à fait.
Et donc on a vu que c'est agréable aussi de manger en pouvant discuter des produits qu'on mange et ça les valorise. Donc c'est vraiment l'actualité de ce salon avec ce village fantastique de Saint-Chalais. On a voulu mettre en avant les producteurs pour ça, pour passer un moment de vie, pour qu'ils puissent parler de leurs produits et communiquer positivement. Et c'est bien quand ce sont les agriculteurs qui le font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de cette communication, qu'elle soit positive ou négative. On a voulu donner la possibilité aux agriculteurs de s'exprimer sincèrement sur leurs produits. Et c'est pour ça que vous voyez des sourires dans toutes les bouches, puisque aujourd'hui on passe du temps à valoriser nos produits en toute humilité.
Jérôme Adou.
Alors tout à fait ce que disait Christophe, nous avons voulu justement mettre en avant et mettre en lumière tous nos producteurs, nos éleveurs, ces passionnés qui justement aménagent le territoire Ils font des produits fantastiques. Et je pense que vous reviendrez à l'actualité, mais nous n'avons pas besoin d'importer des produits alimentaires de l'étranger. Je pense que la ferme France, est bien sûr sur nos territoires, est capable de fournir une alimentation saine et sécurisée à tous nos consommateurs.
Mais je voudrais quand même vous poser une question. On a beaucoup parlé hier, c'était le grand débat des vraies voix à 18h30 de l'affaire des sous-marins français qui n'iront pas en Australie. Quand vous voyez qu'aujourd'hui on importe nos agneaux de Nouvelle-Zélande ou nos moutons de Nouvelle-Zélande alors que la Nouvelle-Zélande c'est franchement à l'autre bout du monde, je ne vous parle même pas du bilan carbone, alors qu'on a du mouton, de l'agneau ici dans les Pyrénées extraordinaire, l'AOP Barège-Pyrénées qui est présente, Barège-Gavarnie pardon, qui est présente ici aux Pyrénéennes. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en déjeunant avec le Mercosur, vous avez l'accord avec le Mercosur, vous avez du steak qui arrive d'Argentine ou du Brésil, alors qu'ici il y a les blondes d'Aquitaine de Jérôme, il y a les Gascogne, qui sont des bêtes à viande absolument extraordinaires. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde, comme chantait Julio Iglesias, je ne chanterai pas, le monde est fou?
Oui, je pense que la mondialisation, elle nous dépasse. Et heureusement que les gens, avec la crise sanitaire que l'on a subie depuis maintenant 24 mois, se sont aperçus qu'on pouvait manger de proximité, en toute sécurité. Et c'est vrai que les gens ont découvert que leurs voisins faisaient un produit formidable.
Philippe Bilger.
Mais à votre avis, pourquoi il y a eu ce mouvement très pervers d'aller chercher ailleurs que ce qu'on a chez nous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience véritable qui s'effectue aujourd'hui et qui va mobiliser les politiques de droite ou de gauche?
Il y a, à mon sens, il y a deux choses qui sont importantes dans le fait d'aller chercher des produits finis de très loin. Il y a la valorisation du produit en lui-même. C'est-à-dire que quand on va chercher un produit en Nouvelle-Zélande, on y rajoute la distribution et le transport qui génèrent un coût important. Et dans ce sens, on dévalorise le produit de la matière première des agriculteurs français. Quand on redistribue cette matière et ce produit et ce tarif, en le valorisant chez le producteur, en augmentant le tarif et en le diminuant au consommateur, si on redistribue cette marge, eh bien on retrouve les sourires qu'on voit aujourd'hui, de la qualité, on redistribue les tarifs, l'agriculteur profite mieux et est mieux rémunéré et le consommateur profite mieux.
Et sur le plan sanitaire, c'est bien.
On est d'accord, on parle
de sanitaire. Parce qu'on a les agriculteurs français, vous êtes tous les deux l'agriculteur, ont les normes sanitaires les plus pointues.
Aujourd'hui, tout à fait Philippe, aujourd'hui toutes les études mondiales qui sont mises à jour montrent que l'agriculture française est en sécurité alimentaire et la meilleure au monde. Donc c'est vrai qu'on a une très bonne image au niveau mondial par rapport à nos produits, tout ce que nous faisons sur notre ferme France, et je pense que le consommateur en a pris conscience. Mais c'est vrai que je pense que nos politiques pourraient nous aider aussi dans tout ce qui est fourniture des collectivités où des fois il y a matière à discuter.
Et quand vous voyez ceux qui tapent sur les agriculteurs en les traitant de pollueurs, de ceci, de cela, vous qui vivez de l'agriculture et qui nourrissez les gens, les Français, qu'est-ce que ça vous fait, Christophe?
On peut comprendre que certains agriculteurs aient un sentiment d'animosité parce que, si vous voulez, le travail est tellement de labeur. Quand on est agriculteur, il n'y a pas histoire de compter les heures. On a difficilement la capacité à accepter ça. Par contre, je pense qu'il faut le prendre de manière positive et être capable d'expliquer comment marche notre métier. Pour pouvoir juger et nous traiter de pollueurs, il faut venir se rendre compte du travail qu'on met, des normes sanitaires qu'il y a, des travaux qui sont faits par nos partenaires, que ce soit l'État, les chambres, les conseils départementaux, les régions, pour nous accompagner. Donc il faut être assez juste et avant de pouvoir se permettre de juger, il faut venir vérifier.
Et pour venir vérifier ce week-end, vous êtes en Occitanie, c'est ici que ça se passe, aux Pyrénéennes, à Saint-Gaudens. Vous pourrez goûter des produits frais, des produits du terroir, des produits de qualité, des produits qui ont du goût, des produits qui ont de la texture, les bons produits de chez nous, de la chaîne des Pyrénées. Je vous le rappelle, tous les produits pyrénéens, de Handaï à Cerbère, il y a même les Espagnols et les Andorrans qui sont là, on les a croisés. Franchement, c'est l'endroit où venir ce week-end. C'est extraordinaire. Par contre, il faut mettre des bonnes chaussures parce que ça fait 25 terrains de rugby. Donc, on ne fait pas ça en footing, on fait ça bien. Et il y a vraiment des produits fabuleux. Dans quelques instants, notre premier débat. Faut-il un plan pour la ruralité? Eh bien, justement, on va en débattre avec le président de l'Association des maires ruraux de France et avec nos vraies voix. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
T'as pas envie de retourner à la campagne?
Non, merci, c'est bon.
La campagne, c'est quand même une autre mentalité.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
La population estime que la sécurité en milieu rural est inexistante.
Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi?
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
À la campagne quand t'arrives.
Ah, on termine avec du Benabar. Benabar qui était venu dans le loft de notre ami Yvan Cujous, qui est un local, notre ami Yvan Cujous d'ailleurs, puisqu'il est au Garonnais avec des origines ariégeoises. On l'embrasse, l'ami Yvan. Les vraies voix sont à Saint-Gaudens, où se tiennent les Pyrénéennes, le salon de l'agriculture des Pyrénées, au cœur de cette France rurale qui travaille, ne brûle pas de voiture, ne fait jamais parler d'elle, mais qui voit disparaître ses services publics année après année. Emmanuel Macron était à Marseille au début du mois, et pour une seule ville de France, plus d'un milliard ont été trouvés d'un coup de baguette magique, alors que des milliards ont été engloutis depuis des années pour peu de résultats. Pendant ce temps-là, nos campagnes se désertifient et voient leurs services publics fermés les uns après les autres, d'où notre premier débat. Faut-il un plan pour la ruralité? Et pour le moment, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Un plan pour la ruralité, est-ce que ça ne devrait pas faire partie des propositions de campagne des candidats à la présidentielle ?
Alors, vous avez raison d'évoquer la potentialité d'un plan sur la ruralité. Mais par contre, vous avez tort quand vous dites que les zones rurales se désertifient. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'exode n'est plus rural, il est urbain. C'est un peu quand même différent. Et c'est tellement différent que cet exode urbain engendre un besoin, ça vous avez raison, un besoin de service, un besoin de réponse. Et ces réponses dans le milieu rural, eh bien, il faut les faire, il faut les fabriquer. Et donc,
Je n'ai pas dit qu'il y avait un exode rural. J'ai dit qu'on ne mettait pas assez d'argent dans la ruralité et qu'on en avait mis beaucoup, beaucoup dans les banlieues pour peu de résultats.
Ça, nous sommes d'accord. Nous partageons le fait qu'effectivement, depuis des années, au niveau des banlieues, si on veut faire une comparaison avec le milieu rural, qui représente 30% de la population, faut pas l'oublier aujourd'hui. Et donc, c'est l'INSEE qui l'a décliné ainsi. Eh bien, quand on sait ce qui a été engouffré, le mot convient, engouffré, et qui va être peut-être engouffré sur une ville comme Marseille, même si je préfère habiter mon village que d'habiter Marseille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra trouver la meilleure efficacité pour chaque territoire. Et souvent, c'est pas que l'enveloppe, c'est la façon dont est orientée l'enveloppe, c'est la façon dont les élus de proximité vont pouvoir utiliser cette enveloppe et pouvoir justement que l'État le contrôle au mieux.
Parce que c'est ça qui est important. Michel Fournier, on va faire réagir les revois. Philippe Bilger, vous êtes d'accord, un plan pour la ruralité. Vous avez vu le nombre de lignes de chemin de fer, etc., qui ont fermé ?
Je voudrais compléter ce qu'a dit le président. D'abord, Michel j'espère Fournier. Que pour une fois, un plan aura quelque effet. Parce que la France adore les plans, mais n'adore pas l'action. Deuxième point, pardonnez-moi. En réalité, c'est très simple. Pour que la ruralité reçoive de l'argent, il faudrait qu'elle devienne un lieu de perdition et de criminalité comme à Marseille. Et que là, tout à coup, le pouvoir macronien veuille bien descendre, donner de l'argent, et vous aurez vu avec quel résultat, puisque en fait, la criminalité n'a cessé d'augmenter depuis le départ du président de la République de Marseille. Donc, malheureusement, les campagnes ne sont plus complètement pacifiées. Il y a de la délinquance, mais malheureusement, vous êtes trop modeste, vous ne faites pas assez de scandales, vous ne créez pas de drames, vous ne sollicitez pas assez les pouvoirs publics. Résultat, tant que ça reste très français, très modéré, très beau, vous n'aurez aucune chance d'avoir de l'argent. Il faudrait faire un peu de scandale une fois.
Michel Fournier, vous êtes prêt à faire du scandale? Parce que là, vous entendez Philippe Bilger en version de Che Guevara. Je trouve ça absolument extraordinaire. Il lui manque que le béret avec l'étoile rouge.
Et ça m'irait pas. Non.
On vous écoute,
oui,
Michel Fournier.
Vous savez, non, mais il y a un temps, même Che Guevara était allié à Fidel Castro. Et on a vu ce que ça donnait in fine à Cuba. Donc, il faut aussi raison garder. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être effectivement modeste dans sa demande et dans la façon d'exiger les choses. Mais il faut construire. Il faut aussi apporter la preuve qu'au sein des territoires, les gens veulent se battre. Et il y a un défaitisme qui existe dans le milieu rural qui n'est dû qu'aux ruraux. Et croyez-moi, par expérience, je sais ce qui a été fait dans ma commune. Je sais ce que l'on a fait dans notre territoire. Je sais ce que beaucoup d'élus font ici ou là. Et quand justement il y a une initiative citoyenne, une initiative qui correspond avec des moteurs, avec des locomotives, on arrive à inverser les choses. Et à ce moment-là, il faut faire confiance. Et il faut effectivement que le gouvernement ou les gouvernements successifs, parce que ça date pas de Macron, hein, ça date, ça fait 30 ans qu'on est dans cette histoire-là. Eh bien, il faut que les gouvernements prennent conscience que c'est pas effectivement le nombre de voitures brûlées. On va pas brûler les tracteurs pour faire plaisir quand même. Et que c'est pas ça qui va déclencher ou pas je voudrais le dire au Che Guevara de votre coin, là. C'est pas ça qui va forcément. Vous savez comment on m'appelle? Moi, on m'a appelé le rebelle toute ma vie. Je suis un rebelle. Sous le fronton de ma commune, c'est marqué, c'est inscrit en lettres sur fond de, sur plaque de bois, à jamais libre et non incorporable. Donc, l'indépendance d'esprit, je l'ai, et nous l'avons chez les maires ruraux. Mais encore une fois, il faut savoir taper juste au bon moment, dans les bien orientés, bien fléchés, pour effectivement faire en sorte, parce que l'intérêt, c'est pas de faire du bruit, l'intérêt, c'est qu'on obtienne que les territoires ruraux soient reconnus à leur juste valeur, et surtout par rapport à ce qu'ils représentent. Que
on ça va soit, écouter, Jérôme Adou veut vous interpeller, c'est le président du salon Les Pyrénéales, et il est également agriculteur.
Oui, alors si vous voulez, et aussi en tant que président de salon, je pense que les responsables de l'État, que ce soit le président Macron ou le Premier ministre, ont 2 jours pour venir nous rejoindre. Alors peut-être ferons une annonce lors de notre salon, nous les attendons. Alors c'est vrai que faire un plan de 1,5 milliard pour Marseille, je pense que la ruralité et le monde agricole, je pense en a tout autant besoin. Donc s'ils ont vraiment des annonces à faire, et nous les accompagnerons pour leur dire ce qu'il faudrait mettre en place.
Philippe Bilger.
Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer.
Là, vous parlez à 2 présidents d'un coup.
Oui, hein. Mais Jérôme me pardonnera de m'adresser à l'autre. Je voudrais le rassurer, Les Vraies Voix ne sont pas une émission de France Culture ou de France Inter. Hein. Et donc, il ne faut pas croire au premier degré que je suis chez Guevara, je vous assure.
Justement, qu'est-ce que vous voulez répondre justement à Jérôme Adou, le président du salon, et à Philippe Bilger, qui n'est pas de chez Guevara, on le rappelle.
Non, ce que je voudrais aussi leur dire... Vous voyez, il y en a un, si j'ai bien compris, parce que je suis en déplacement, donc je suis sur un portable. Et ce que je voudrais dire, j'ai compris qu'il y en a un qui était aussi président, c'est d'une coopérative laitière, je me trompe?
Non, c'est il est président du salon Les Pyrénéennes où on est, et il a également, il est éleveur notamment de vaches laitières, il a des prix Molstein et de bêtes à viande. Il fait de la blonde l'Aquitaine, donc de la bête à viande.
De la bête à viande, d'accord. Donc, il est agriculteur, je suis fils d'agriculteur, j'ai été aussi exploitant double actif pendant le moment de ma vie. Donc, je peux comprendre les besoins qui existent. Mais je sais aussi, parce qu'il faut le comprendre, quand s'il y a un plan pour la ruralité, je dis bien pour la ruralité, ce plan-là, il n'est pas seulement sous l'aspect, il ne doit pas être, sous l'aspect essentiellement agricole. Car aujourd'hui, en ruralité, ne vivent pas seulement des agriculteurs, vivent aussi des artisans ou d'autres personnes qui, pour des tas de raisons, vont souvent travailler à l'extérieur, mais habitent et font vivre, au niveau associatif ou autre, font vivre avec les agriculteurs qui sont qui sont indispensables pour nos territoires. Mais encore une fois, il faut globaliser et il faut surtout pas sectoriser un besoin plutôt qu'un autre, parce qu'on obtiendrait des déséquilibres. Et quand t'es maire, le problème du maire, c'est de faire en sorte que ton territoire vive le mieux possible, que ta commune, eh bien, tu sois un peu le père spirituel de cette commune pour tous, et donc obtenir qu'il y ait, que chacun puisse s'y retrouver. Et cet exercice d'équilibriste, eh bien, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je l'exerce. Donc, j'ai quelques expériences maintenant. Et je continue pourtant à me battre pour qu'effectivement, on reconnaisse la vitalité et la création et la créativité qui existent dans les territoires ruraux, que ça soit au niveau d'agriculteurs professionnels ou autres, artisans, jeunes entrepreneurs, etc. Il y a plein d'énergie. Et effectivement, là, il y a un besoin d'accompagnement. C'est pour cela que je suis d'accord quand même avec le début. Le 1,5 milliard consacré à Marseille, eh bien, on peut aussi regarder d'une autre façon que l'on peut consacrer aux territoires ruraux.
Christophe Laforgue, et après on part au 0826 300 300.
Il y a tellement de choses intéressantes, mais je veux reprendre sur les premiers morceaux. dire qu'on met 1,5 milliard pour Marseille, moi ça me parle pas. J'ai pas la notion de savoir ce qu'a vraiment besoin de Marseille. Est-ce que c'est 500 millions, est-ce que c'est 1 milliard, est-ce que c'est 2 milliards? Pour nous, on est déconnecté de ça. Par contre, la ruralité, monsieur Bilger, Philippe, je te rejoins dans un sens où la ruralité, c'est l'humilité et on apprend à nous débrouiller. Donc effectivement, on ne revendique pas parce que dans la ruralité, on apprend à se débrouiller et à ne pas réclamer, à ne pas demander. Et donc c'est très compliqué d'être aujourd'hui dire on a besoin de 1,5 milliard pour la ruralité parce que le 1,5 milliard, comment on s'en sert? Est-ce qu'on a besoin de 1,5 milliard? Est-ce qu'on les a pas besoin? Ce qui est important, c'est ce que disait monsieur Fournier, c'est de savoir comment on optimise les moyens qu'on va nous mettre en place. Pour ça, je rejoins Jérôme en disant que si des élus d'État viennent à notre rencontre pour écouter vraiment les besoins de la ruralité, c'est pas la notion de moyens, c'est la notion d'optimisation de ces moyens qui est très très importante. Il y a juste une chose aussi sur laquelle je partage pas avec monsieur Fournier, c'est la notion de défaitisme dont vous faites part. C'est dommage que vous soyez en déplacement, vous seriez venu aux Pyrénéennes, vous verriez l'optimisme naissant de la ruralité aujourd'hui au bord des Pyrénées. Beaucoup de néo-ruraux s'installent et je vous rejoins quand vous dites que la ruralité ce n'est pas l'agriculture, ça n'est qu'une partie de l'agriculture. Oui. Mais aujourd'hui, pour les néo-ruraux et les gens qui s'installent ou les artisans, il faut apprendre aussi à apprendre à vivre en ruralité. Nous le premier, quand on fait le choix de vivre et que nos enfants vivent dans la ruralité, c'est parce qu'on a un choix affirmé et qu'on n'a pas eu besoin de plan de relance pour ça. Donc ce que je vous dis, il ne faut pas mettre en opposition l'urbain et la ruralité.
Un mot juste, là où le président Fournier a raison, je crois qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, la ruralité est désirée et n'est plus méprisée. Ça, je crois que c'est très important.
Ça, c'est vrai. Ça réagit au 0800 26 300 300. Oui. Pas vraiment en zone rurale, puisqu'on va à Châtenay-Malabry, c'est en Île-de-France. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir. Merci.
Est-ce que vous pensez... Bah, avec grand plaisir. Est-ce que vous... Alors, vous êtes dans la France, on ne peut plus urbaine. Hein, Châtenay-Malabry, ouais, c'est à 10 km de Paris, 15 km de Paris. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire un plan pour la ruralité?
Bah, écoutez, je voudrais d'abord juste dire un mot de la démarche du président Macron avec son 1,5 milliard. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'argent du président Macron, hein, c'est l'argent des Français qu'il est allé déverser. Bon, qu'il est allé déverser sur Marseille. Bon, il a fait une véritable opération de Canadair, déversant de l'eau sur un incendie. Pourquoi Marseille? Bah, parce que Marseille, c'est une zone ultra problématique à l'heure actuelle. Et que tout le monde pourra penser qu'avec 1,5 milliard, on va régler des problèmes, ce qui est évidemment faux. Donc c'est une démarche purement électoraliste, tentative d'éteindre un incendie ponctuellement. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. En France, il y avait autrefois une délégation à l'aménagement du territoire. C'est devenu une délégation interministérielle à l'aménagement du territoire. Normalement, effectivement, l'argent des Français, il est mis là où il peut être le plus utile, le plus efficace. Donc autant dans la ruralité, si besoin est, que dans des zones urbaines. Donc il n'y a pas de démarche ponctuelle comme purement, électoraliste comme celle qui a été faite. C'est une démarche qui consiste tout simplement à mettre de l'argent là où les Français en ont besoin.
Là où
il y en a besoin, oui, c'est tout. C'est pas forcément à Marseille.
Comme disait Christophe, c'est le bon sens paysan quelque part. Même à Châtenay-Malabry, on a le bon sens paysan.
Je voudrais juste dire un mot. Il y a autrefois un président de la République qui s'appelait Georges Pompidou, qui était un enfant du Cantal. Lui, il connaissait
Absolument, à la fois le Mont Boudif.
Et lui aussi, il a travaillé à la maison Rothschild. Mais lui, la différence, c'est qu'il connaissait le monde rural. Et lui, il était capable. Je crois que c'est un de ceux qui ont porté la Datar. Et lui, il savait le prix qui s'attache en France au monde rural. Donc dire qu'il faut mettre de l'argent sur le monde rural, c'est une évidence. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut en mettre là où on en a besoin. Et pour ça, il faut une démarche objective et non pas une démarche électoraliste comme celle qui a été faite en déversant, mettant 1,5 milliard de plus sur Marseille.
J'ose à peine rappeler ce que disait le président Pompidou parce que je risquerais d'utiliser un gros mot.
Bon, allez-y, on parle en vrai.
Allez-y.
Il disait il faut arrêter d'emmerder les Français et ça me paraît tellement juste.
Merci Dominique de Châtenay-Malabry. Michel Fournier, vous avez entendu Dominique. C'est vrai que l'aménagement du territoire, on se dit que où est-ce que c'est passé? On en a parlé pendant des décennies et finalement maintenant c'est un peu aux abonnés absents.
Je voudrais apporter une précision à ce monsieur de Châtenay-Malabry. On n'est pas là pour opposer le rural et l'urbain, on est absolument d'accord. On est aussi absolument d'accord pour dire que, effectivement, il faut que les gens aussi sur les territoires se prennent en main. Mais quand il précise que c'est le milliard déversé, c'est pas l'argent de Macron, c'est l'argent public,
des Français.
C'est donc de tout un chacun, je tiens à rappeler et à signaler à ce monsieur qui est dans l'urbain qu'au niveau dotation de l'État aux communes, quand chaque commune a droit à une dotation fondée sur le nombre d'habitants, ce qui est complètement déjà aberrant, puisqu'on ne parle que d'habitants et on ne parle pas d'espace et de territoire. Mais en plus, ce qui est aberrant, c'est que depuis 30 ans, y compris avec Pompidou, depuis plus de 30 ans, eh bien, un habitant rural a deux fois moins de dotation qu'un habitant urbain. C'est-à-dire que quand moi, je touche 1 euro de ma commune en dotation, ce qui s'appelle DGF, la ville à côté, elle touche 2 euros. Et donc, je dis qu'à un moment donné, il faut de l'équité et de l'égalité. Parce que les citoyens ruraux sont plus mal desservis au point de vue dotation, deux fois moins qu'un citoyen urbain.
Jérôme Adou.
Oui, comme le disaient Philippe et Christophe, je pense que nous, ceux qui vivons dans la ruralité, nous nous contentons de ce que nous avons. Et c'est vrai que comme la crise sanitaire et la crise alimentaire, bon, les gens ont découvert que nous faisions des magnifiques produits et ils se sont aperçus qu'on avait un confort de vie en zone rurale et on s'aperçoit tout à fait une migration de gens qui veulent maintenant habiter dans nos campagnes. Or, nous allons les accueillir, nous sommes ravis de les avoir, mais bon, il faudra qu'ils prennent aussi toutes les contraintes de vivre à côté d'un agriculteur qui des fois des vaches, des poules et,
oui,
et
ceux qui, les coqs.
Oui,
les
ceux, coqs. Ceux qui portent plainte parce qu'ils entendent le coq chanter le matin ou les coqs.
Quand
ou les
c'est
poules,
pas les cloches.
C'est quand c'est pas les cloches. Oui, Christophe. Oui,
moi, je rejoins le président Fournier dans le sens où il y a ce manque d'équité par rapport à la dotation. Ça, il n'y a, pas à l'expliquer. C'est injuste et on ne peut pas continuer à avoir deux fois moins de dotation au rapport de la personne. Moi, ce qui est très inquiétant dont on ne parle pas, c'est que quand on met en place des moyens, et notamment, j'insiste sur la santé qui devrait être une compétence d'État, et la compétence d'État est déchargée sur les régions qui font. On a la chance en Occitanie et avoir le conseiller départemental qui quand même met énormément de moyens dans la santé. Si on n'avait pas ces actions-là, aujourd'hui on aurait un service de santé qui est amoindri, qui est même très pauvre dans certaines zones rurales. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on parle de la santé de tous et aujourd'hui, c'est une compétence d'État et ça, c'est très grave parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vivent en ruralité, qui n'ont pas de suivi, qui ont des problèmes et qui les laissent traîner parce qu'ils n'ont pas de moyens de santé. Donc ça, c'est très, 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 très grave. Et nous, dans la ruralité, on l'absorbe. Mais quand ça touche directement les personnes, c'est là qu'on réagit. Et c'est là où il commence à y avoir de l'animosité parce qu'on se dit qu'il faut faire 50-55 minutes pour avoir un entretien classique d'un podologue ou une autre spécificité. Ça, c'est, à mon avis, le gros problème de la ruralité.
Très court, Jérôme.
Oui, très court. Alors, juste pour dire que ce que disait M. Fournier, bon, nous avons un gros problème de soignants, de docteurs. Oui. Et bien sûr, dans l'agriculture, nous avons maintenant ce phénomène qui se la problématique des vétérinaires qui on ne trouve plus de remplaçants pour venir sur nos zones. Et c'est vrai que la santé et le soin animal va être un vrai problème dans la ruralité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France. Verdict sur Twitter. Faut-il un plan pour la ruralité? Vous êtes 77% à dire oui. Ça vous dirait la chronique des présidentielles de Philippe Rossi, les amis?
J'attends que ça.
Et bien, c'est dans quelques instants.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les Pyrénéennes en direct de Saint-Gaudens, c'est magnifique, le soleil sur les Pyrénées. En face de nous, on est en compagnie évidemment de Philippe Bilger, de Christophe Adou, de Christophe Lafort, pardon, le directeur du salon et de Jérôme Adou, j'ai mélangé les deux, le président du salon,
ouais.
Mais très joli mix très d'ailleurs. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de notre ami Philippe Rossi. Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle 2022, c'est avec vous Philippe Rossi.
Eh oui, bonsoir à tous, bonsoir Saint-Gaudens. Dans quelques jours, on va sortir un nouveau livre politique. Alors, après celui de Zemmour, encore le très bon livre de notre ami et partenaire de l'IFOP, Frédéric Dabi, voici le livre politique qui va faire beaucoup parler. Il est signé Cyril Hanouna. Eh oui, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril en plein mois de septembre. Ce que m'ont dit les Français sortira le 6 octobre. C'est bien un livre politique signé Cyril Hanouna. Alors, dans cet ouvrage, le présentateur de C8 livre sa vision de la France à l'éditorialiste Christophe Barbier. Livre écrit à la première personne. L'animateur raconte comment il a endossé un rôle de médiateur entre ses téléspectateurs et les politiques. Tout a commencé lorsqu'il s'est fait le porte-parole des Gilets jaunes au moment de la crise, souvenez-vous.
Sachez qu'hier, je suis sorti voilà, du studio et il y avait des gilets jaunes qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils avaient un coup de gueule à faire dans une émission. Ils m'ont demandé si je voulais bien leur donner la parole. J'ai dit, moi, la parole ici, elle est ouverte à tout le monde. Donc, ils vont nous en parler dans un instant.
Voilà, et depuis, Cyril Hanouna a couvert beaucoup de crises, hein, beaucoup d'événements, le pass sanitaire ou encore les violences policières. Cyril Hanouna qui a reçu beaucoup d'élus, qui prépare pour la présidentielle même une émission, écoutez bien, une émission 100% politique. L'animateur devrait aller à la rencontre des candidats. Un grand débat pourrait même ensuite tous les rassembler. Eh oui, un débat politique mené par Cyril Hanouna. Est-ce qu'il faut en rire? Tiens, Philippe Bilger.
Mon cher Philippe, eh bien, j'ai été l'un des rares Français qui ne regardait pas son émission et qui en même temps ne méprisait pas Cyril Hanouna. Je crois que c'est un homme très intelligent qui sait exactement la manière de faire le succès d'une émission. Et je regrette que parfois, alors qu'il pourrait demeurer dans la tenue et l'allure, il succombe trop souvent à la vulgarité et à l'insulte. C'est dommage.
Oui, c'est dommage. En tout cas, on va pas juger, évidemment, avant d'avoir vu cette omission qui devrait voir le jour début octobre. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a quelques jours, c'était la rentrée politique. Et je peux vous dire que dans la Macronie, c'est l'euphorie. Pourquoi? Tout simplement parce que les sondages sont favorables au chef de l'État, tant en popularité qu'en intention de vote. Et certains ministres, conseillers ou bien parlementaires pensent déjà que les jeux sont faits. Et oui, beaucoup y croient en la réélection de leur champion Macron, alors que certaines voix sont beaucoup plus circonspectes. Hein. Il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a pas de danger, estime un ministre de Jean Castex, je tairai le nom évidemment, qui appelle les troupes à la prudence. Ce ministre sait très bien que la présidentielle réserve souvent des surprises et que le favori de septembre n'est en général jamais l'élu du mois de mai. Je peux vous dire que dans la Macronie, on scrute par exemple en détail les faits et gestes d'Éric Zemmour, mais pas que, hein. Les faits et gestes de Xavier Bertrand par exemple, ou des candidats LR. C'est d'eux que peut venir la surprise, explique ce ministre. Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Monsieur Laforgue, peut-être?
Oui, moi je trouve déjà irréel d'avoir ces prises de position et de se croire facilitateur comme Cyril Hanouna pour mettre du monde autour de la table. Il y a vraiment des actions de communication avec des enjeux qui sont tellement importants que j'arrive pas à me projeter dans la dérision qui met en place. On vient de parler de sujets comme la réalité qui nous touche, qui sont très importants. Et moi, je fais partie, et on est au moins deux à cette table, Philippe Bilger, je regarde pas cette émission non plus, et parce que je m'y retrouve pas dans cette démarche qui est vraiment communicative. Alors, ça, on peut rigoler 5 minutes de ça, mais quand on le vit au quotidien et qu'il y a des douleurs, on peut rire de tout, et j'adore le faire. Mais je vois pas l'amalgame et cette facilité à mettre en place. J'y crois pas une seule seconde et je le crois pas décisionnaire ou décisif ou influenceur sur la prise de position des Français. Je pense que les Français sont plus lucides que ça.
Je ne parlais que de lui.
Hein, oui, j'ai bien compris.
Oui. Merci, monsieur le Président. Moi, je vous retrouve lundi et finalement pour des indiscrétions, des scoops de l'actualité sur la présidentielle 2022. En attendant, je vous dis
au revoir.
Merci beaucoup Philippe Rossi. Merci beaucoup président Jérôme Adou, parce que vous avez laissé la place, vous êtes un homme particulièrement galant à Magali Galto-Ostrick, la présidente de la communauté de communes Cœur et Coteau du Comminges. C'est ici même où sont les vraies voix à 18h30, notre grand débat. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens avec nous, le grand chef des vraies voix, Philippe Bilger.
C'est trop faible.
L'empereur des vraies voix.
Ça me va.
Vous voulez pas le dieu pendant qu'on
est... Non. Dieu, il est ailleurs.
Philippe Bilger est resté avec nous, Christophe Laforgue, directeur du salon Les Pyrénéennes et agriculteur. Et elle vient d'arriver, elle a remplacé Jérôme Adou, c'est Magali Galto-Ostrick, présidente de la communauté de communes Cœur et Coteau du Comminges. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez entendu la première partie, c'est dynamique. Hein.
Oui, j'ai entendu ça.
Vous avez vu, il y a du niveau, comme on dit donc là, oui. Mais on sait que vous allez en avoir, il n'y a pas de souci.
Pas de souci.
On avait commencé par un tour de table de l'actualité. Ça vous dirait qu'on en fasse un autre?
On va en faire un autre, mais avant, on va vous faire un petit cadeau.
Ah, non.
Si.
Ah oui,
la
ah, oui
dernière,
du foie gras là qui arrive.
Ah, ouais. Vous nous avez taquiné sur du foie gras.
Ah,
vous
oui.
Avez demandé s'il y en aurait, je vous ai dit qu'il y aurait tout ce que vous voulez, donc on a fait venir un producteur.
Un producteur qui s'appelle David Béguet, il est à Castex. Ça ne s'invente pas. Dans... Le maire de votre ville ne s'appelle pas Jean, par hasard. Parce qu'en plus, c'est dans le Gers, d'où est Jean Castex. Alors, c'est un peu amusant. Venez, prenez le micro, David. Alors, vous nous avez amené un foie gras. Alors, Philippe Bilger, voilà. Il n'y a pas droit, il est au régime. Ça en fera plus pour les autres, c'est parfait.
Un foie, c'est spécial, c'est un foie au sel, en fait.
Un foie au sel. Ah, ben, on va goûter ça, allez-y. Allez-y, non, Philippe. On va goûter ça. Bah, oh, expliquez-nous ce que c'est, pendant ce temps-là, on le déguste.
C'est un foie au sel que j'ai travaillé avec du sel de Guérande spécifique. Et que j'ai laissé en chambre froide, notamment pour que ça travaille et que ça fasse un excellent foie, justement, que vous l'ayez sous le palais ou que ce soit fin et en même temps crémeux.
Bien dans le micro, bien dans le micro. Ah, c'est... Alors, je suis désolé, on va le goûter parce que c'est du réel, c'est du direct. On est depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens.
Voilà.
Philippe Bilger, allez-y.
Ce qu'il y a de formidable, c'est que ça évite de mettre du sel de Guérande. Oui. On n'en met pas toujours sur le foie gras. Oui, et le vôtre est incorporé, c'est vraiment magique.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que en fait, si vous voulez, si on travaille un foie qu'on veut faire traditionnellement, sans faire un foie au sel, on va pas spécialement mettre un sel de Guérande, justement, sur ce foie-là.
Ah, c'est délicieux, c'est vraiment, c'est vraiment délicieux.
Ça reste assez fin sous le palais.
Ah mais non, c'est très fin sous le palais.
C'est un point délicieux que j'ai craqué à nouveau.
Mais je vous rappelle, vous êtes au régime, pour, Philippe Bilger.
Bien sûr, faites-vous plaisir.
Non, sauf durant 2 heures.
Alors, c'est extraordinaire, vous vendez dans toute la... Alors, évidemment, vous exposez. Prenez le micro à la main, vous inquiétez pas. Ouais, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, c'est bien fixé. Voilà, vous exposez évidemment ici aux Pyrénéennes.
Oui.
Vous produisez donc à Castex. Vous ne faites pas que du foie gras, vous faites plein d'autres choses.
Non, je fais de l'élevage aussi, je fais de la poule aussi, la poule noire d'Astarac, traditionnelle. C'est une poule sauvage.
Et alors, vos foie gras, parce que ici on peut venir les acheter aux Pyrénéennes, si on est en Occitanie, mais je vais vous prendre un exemple. Tiens, on avait un auditeur tout à l'heure à Châtenay-Malabry, en région parisienne. Il veut acheter vos foie gras. Alors, votre foie gras au sel de Guérande, je lui fais un coup de pub. C'est vraiment délicieux, Philippe Bilger.
Fameux. Je déteste les publicités mensongères, mais celle-là, elle est juste.
Oui, c'est vrai
votre foie gras, c'est un délice. On peut le commander par Internet ?
Oui, bien sûr, oui, vous pouvez commander par Internet. Vous voyez comme le tract.
Venez
je
par là
laissé.
Pour être dans l'axe. Ah non, mais il n'y a pas assez de longueur de micro. Donc mettez-vous juste derrière.
Attention,
foie gras. Derrière Christophe. C'est pour qu'on vous voit parce qu'on est également en vidéo.
D'accord.
C'est pour ça. On peut le commander par Internet alors ?
On peut commander par internet, oui, exactement. Avec le tract, justement, où c'est assez complet, vous voyez, à l'intérieur.
Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. On peut commander des cargasses entières de canards, des foie gras frais, des magrets, des saucisses de canard, des pâtés de canard, des cassoulets, des frites.
Arrêtez, Philippe.
Ça, c'est l'entrée. Oui. Après, on va passer au plat de résistance.
Oui, c'est ça. Après, j'ai des plats cuisinés aussi, comme le cassoulet, la garbure. C'est vraiment traditionnel la garbure
en fait,
que je fais.
J'ai parlé du sel, mais le foie gras lui-même est exceptionnel.
Oui, bien sûr.
Le foie gras est vraiment délicieux. C'est vraiment absolument délicieux. Alors, on donne votre adresse, votre site internet, c'est www pour commander évidemment.
Oui.
Allez-y, dites-le nous. Hein.
C'est les Coteaux du Clamins.
Voilà, les Coteaux du Clamins.
Vous allez le trouver sur les Coteaux du
Clamins. www.coteaux au pluriel du Clamins, C-L-A-M-E-N-S, toutcollé.fr. Et alors, il y a une photo géniale sur le prospectus. C'est une poule qui regarde. C'est même un coq, ça. C'est un coq, pardon. Qui regarde un bloc de foie gras dans son bocal. Et à mon avis, quand on voit le regard du coq, il serait très content de manger du canard. Vous ne croyez pas, Philippe Bilger ?
Sûrement.
Ah bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, David. En fin d'année, on fait le chapon aussi.
Et merci, le chapon, etc. pour Noël. Ah ben, vous avez une bonne adresse.
Exactement.
Et c'est à Castex, dans le Gers. Et pour celles et ceux qui viennent ici, à Saint-Gaudens, il expose et on peut déguster.
Voilà, c'est ça. Ou à travers toute la France, quand je fais des foires.
Bon, Philippe Bilger, je vous laisse animer l'émission. Moi, je pars sur le stand de David Béguet, ça vous va ?
Absolument.
Absolument, ben, je vous laisse dans ces cas-là, c'est parfait. Merci beaucoup, David.
Pour confondre une poule avec un coq, je vois que vous n'avez pas l'habitude des crêtes.
Non, parce que j'avais. On a un peu la même coiffure, vous et moi, mon cher Christophe. Ça vous dirait un tour de table de l'actualité ? Allez, c'est parti.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Tenez cette table-là. Et bien tout le monde l'appelle la table des chevaliers.
Ah bon ?
Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnus.
Le tour de table
de l'actualité.
Et c'est Magali Gasto-Oustric, la présidente de la communauté de communes Cœur et Coteau du Comminges, on y est ici, qui va nous faire son tour de table de l'actualité. Vous allez voir qu'il est vraiment de circonstance. Vous permettez que je continue à déguster. Hein.
Allez-y. Ah bah allez-y, vous en prie,
merci. Parce que Philippe Bilger, lui, il se lâche.
Hein. On va vous savourer tout de même.
Il y a de quoi.
Voilà. Alors, votre actualité, c'est les Pyrénéennes.
Ah oui, je vis Pyrénéennes là depuis effectivement 3 semaines. Intense. Donc,
comment ça se prépare un tel salon? Parce que c'est tous les 3 ans, mais c'est immense, immense, immense. Comment ça se passe quand on est élu?
C'est plusieurs mois de préparation, une année en l'occurrence. Ça n'a pas été facile vu le contexte sanitaire de pouvoir réunir les personnes qu'on aurait voulu réunir dès le départ. Mais ensuite, je suis entourée d'une équipe formidable, je tiens à le dire.
Votre équipe est formidable, voilà. Ici on a un accueil extraordinaire, n'est-ce pas Philippe Bilger?
Efficace et aimable, ce qui ne va pas toujours ensemble.
Non, mais dans le Comminges, on sait recevoir.
Et alors, ça dure jusqu'à dimanche soir?
C'est ça, tout à fait, oui.
Et dégustation, il y a même des démonstrations, alors incroyable, délitreuillage.
Tout à fait, oui.
C'est vraiment très vaste. Hein.
Ah oui.
Parce que ça, on est habitué ici dans les Pyrénées. Malheureusement, on voit souvent les hélicoptères du PGHM et des CRS de secours en montagne. On les a reçus
vous
la semaine dernière.
Vous ne pourriez pas tenter de hélitroyer Philippe David?
On vous a rappelé la semaine dernière que c'est moi qui avais doublé Belmondo dans Peur sur la ville.
Mais vous êtes revenu.
Et donc, c'est votre actualité depuis 3 semaines. Et ça va continuer. On va se retrouver dans quelques instants parce qu'il y a une info qui est tombée ce matin. Le gouvernement a dévoilé un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Eh bien, on va en débattre de ce plan avec Emmanuel Lafond, qui est président fondateur du cabinet de recrutement Sparterh, et Pierre-Édouard Magnan, président du mouvement national des chômeurs et précaires. Qu'est-ce que ça change pour les chômeurs de longue durée? Restez bien avec nous sur Sud Radio à 18h30, notre grand débat. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix en direct de Saint-Gaudens avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, mais qu'on ne présente plus, Christophe Lafort, directeur du salon Les Pyrénéennes et agriculteurs, et Magali Gasto-Oustric, présidente de la communauté de communes Cœur et Coteau du Comminges. Ne pas laisser les chômeurs de longue durée sur le bord du chemin pendant que l'économie repart, c'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dans une interview accordée aux Parisiens et publiée ce matin. Elle a promis que le gouvernement allait lancer un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont des postes pour lesquels ils ne trouvent pas de salariés. Et assure la ministre qui propose par conséquent de financer les entreprises qui formeront pendant plusieurs mois les demandeurs d'emploi de longue durée. Avec nous pour en débattre, Emmanuel Lafond, président fondateur du cabinet de recrutement Sparterh. Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et Pierre-Édouard Magnan, président du mouvement national des chômeurs et précaires. Bonsoir. Pierre-Édouard Magnan. Alors, on va commencer avec vous. Emmanuel Lafond, qu'apporte ce plan par rapport à ce qui existait aujourd'hui?
Je sais pas. Moi, je trouve pas parce que, aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez recruter, il faut savoir qu'il y a déjà plein de dispositifs qui existent. Le premier, alors je vais dire des acronymes, excusez-moi, hein, c'est l'EMT, l'évaluation au milieu du travail, où on peut évaluer quelqu'un qui est au chômage chez nous, payé par Pôle emploi pendant un mois, c'est renouvelable une fois. C'est-à-dire que le garçon ou la nana qui va venir bosser avec nous va travailler pendant 2 mois dans l'entreprise payé par Pôle emploi. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'il y a déjà un dispositif qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, qui permet de former un collaborateur dans l'entreprise pendant une durée maximum de 400 heures, c'est-à-dire que ça va s'étaler à peu près sur 3 mois. Et pendant ce temps-là, le collaborateur, il est chez vous, vous le formez justement pour le recrutement, donc c'est en vue d'un recrutement, c'est pas un stagiaire, et la personne est payée par Pôle emploi, et mieux, Pôle emploi vous rémunère le temps de formation que vous allez faire chez votre vis-à-vis du collaborateur. Donc c'est-à-dire que j'ai calculé, pour 400 heures maximum de formation, ça vous fait un chèque de 2000 euros dans les poches. Mais ça, c'est pas nouveau.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y gagne avec les mesures annoncées par Elisabeth Borne, pardon?
Pour l'instant, elle n'a pas détaillé ces mesures. Elle dit juste l'idée et elle a demandé à Pôle emploi de faire le point sur tous les dispositifs qui existaient ou qui existent sur les territoires pour leur monter de l'info et ensuite prendre leurs décisions. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire à Madame la Ministre qu'il y avait un dispositif qui existait, qui était très très bien sur l'Île-de-France, mais qui a été retiré par des élus il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. C'était un dispositif qui s'appelait Dynamic Cadre. Et donc ça permettait aux TPE et PME de recruter un cadre qui était payé et par Pôle emploi et une partie par l'entreprise. Et ça permettait au cadre de créer son poste dans l'entreprise. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise, et ceux que j'accompagne en particulier, ils ont besoin d'une chose, c'est d'être rassurés sur leur recrutement. Parce qu'aujourd'hui, recruter, c'est un risque. On calcule en disant que voilà, c'est à peu près l'équivalent, la taille du risque, c'est l'équivalent d'une année de salaire chargée. Et ça, c'est ce qu'on prend comme risque quand on recrute. Et les gens ont besoin d'être rassurés sur leur recrutement.
Alors Emmanuel Lafond, on a retrouvé Pierre-Édouard Magnan, président du Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez eu la vision d'un patron qui travaille dans les RH. Qu'est-ce qu'apporte ce plan par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants ?
Alors, le problème déjà de ce plan, c'est que la question est très très floue. C'est-à-dire que si on nous refait le coup du plan 100 000, du plan 200 000, du plan 500 000 formations, je crois qu'on a mis une fois le plan 1 million, parce que les politiques ne reculent devant rien, bah, on a les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura toujours les chômeurs les mieux formés du monde. Mais je veux dire, c'est pas la formation qui ferait de l'emploi, même si je ne nie pas des problématiques d'adéquation et même des problématiques de recrutement. Je suis responsable de structure, et donc en tant que président d'association de chômeurs, je suis aussi des fois en situation de recrutement. Donc je n'ignore pas aussi que c'est pas toujours simple de trouver la bonne personne au bon endroit. Néanmoins, voilà, la formation n'a jamais créé d'autres emplois que celui des formateurs. Ou alors, c'est en fait un contrat aidé qui veut pas dire son nom, c'est-à-dire qu'on dit sous prétexte qu'on va former les gens sur leur lieu de travail, on prend en charge le salaire. Alors d'ailleurs, on n'a pas, enfin moi en tout cas en l'état actuel, je n'ai pas d'éléments sur la durée de contrat minimum, sur la durée horaire minimum et sur le montant d'éventuelle prise en charge. Il y a peut-être eu des informations, mais en tout cas moi je n'en suis pas destinataire, donc tout ça est encore très flou. Donc j'ai envie de vous dire, nous on n'est pas hostile par principe au contrat aidé, ils ont leur mérite pour remettre des gens dans une situation de travail, surtout quand on parle de chômeurs de longue durée, hein, quand on n'a pas travaillé depuis un an, mais 18 mois, 24 mois, la reprise d'un rythme de travail, d'un emploi, d'un cadre de travail, c'est pas aussi simple que ça, et ça moi je ne le nie pas non plus, et tous les employeurs sont pas forcément équipés pour gérer ça. Donc j'ai envie de vous dire que je suis par nature méfiant vu ce que fait ce gouvernement régulièrement, et je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'on essaye de nous faire croire qu'on va mettre un petit peu de sucre de ce côté-là pour compenser le sel et le poivre qu'on envoie dans le nez des chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage ? Je ne sais pas, mais voilà, on est. Alors, je suis assez perplexe, mais bon, je ne veux pas tomber dans les procès d'intention.
Je voudrais vous faire réagir tous les deux assez brièvement parce qu'on n'a pas trop de temps. On a mis le paquet depuis longtemps, notamment sur l'emploi des jeunes en multipliant les aides. Je ne crois pas dire de bêtises dans ce domaine, mais le chômage de longue durée, c'est, je crois, plutôt les seniors qui en sont victimes. Est-ce que c'est pas un peu... on a regonflé une roue, on essaye de regonfler l'autre. Est-ce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul dans un... On l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre, Emmanuel Lafond ?
Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a déjà des dispositifs qui existent et que je ne sais pas à quoi ça sert, hormis avoir une communication en vue peut-être d'une future échéance électorale, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre que tout à coup, on se réveille, on se dit « Oh, les chômeurs de longue durée, c'est pas normal ».
Vous parliez des chômeurs, vous parliez des seniors. J'aime à rappeler qu'à Pôle emploi, senior, ça peut commencer à 45 ans. Moi, quand j'ai 42, vrai. Je vous cache pas, je commence à avoir les jetons. il faut voir ce qu'on appelle senior quand même dans ce pays. C'est-à-dire qu'on considère que on est vieux face au monde du travail, passé 45 ans dans certains cas. L'INSEE dit 50 ou 55. Je me permets d'ailleurs de dire, entre parenthèses, qu'on n'arrête pas de vouloir reculer l'âge de la retraite, mais qu'on explique que passé 50 ans, on est inapte au travail. Donc, il y a quand même un vrai, là, entre parenthèses, il y a aussi un sujet. Et après, sur l'existant, moi, je suis d'accord avec qui vient d'être dit, il y a aujourd'hui des milliards sur la formation professionnelle qui peuvent être mobilisés par les employeurs pour former des gens qu'ils embauchent, oui. S'ils embauchent des gens qui n'ont pas toutes les compétences. Cet argent n'est déjà pas utilisé, surtout d'ailleurs pour les chômeurs. Parlons, c'est le débat, mais de mémoire, sur les 30 milliards, il y en a au mieux 3 qui vont sur la formation des chômeurs. On sait que l'argent n'est pour une part pas utilisé, que la formation professionnelle est une usine à gaz absolument invraisemblable, et j'allais dire on remet de l'argent par-dessus. Alors effectivement, est-ce qu'il y a des visées électoralistes? Peut-être. Il est vrai que nous sommes, paraît-il, à quelques mois d'une grande échéance électorale, et que sans doute M. Macron, qui est un berbe, il pense en se rasant, mais effectivement, je ne vois pas de pain. On manque de beaucoup d'éléments pour avoir une appréciation solide. On peut craindre l'écueil du prétexte, parce que j'ai entendu dire qu'il fallait que Pôle emploi appelle tous les chômeurs de longue durée, estimés 1 500 000 d'ici fin décembre. 1 500 000 rendez-vous travaille avec des chômeurs. Pôle emploi ne le fera pas, c'est impossible. Ou alors on fait 1 500 000 mails avec des gens qui n'y répondront pas, qui ne les verront pas, qui ne comprendront pas ce qui se passe, ce qui permettra d'ailleurs potentiellement de les radier, c'est bien parce que ça les fera sortir des statistiques, mais ça ne tient pas debout. Donc, j'attends des éléments de précision, parce que comme tout le monde, on est un peu dans le flou, mais quand même, il y a de quoi ou bien s'inquiéter, ou bien trouver ça effectivement un peu électoraliste sur les bords.
Quand c'est flou, il y a un loup, comme disait Martine Aubry, et on suivra ce dossier de très près, messieurs. Merci beaucoup, Pierre-Édouard Magnan, président du Mouvement National des Chômeurs et Précaires, et Emmanuel Lafond, président fondateur du cabinet de recrutement Sparterrage. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes pour le moment 64% à dire non sur Twitter.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens avec Philippe Bilger, Christophe Lafort, directeur du Salon Les Pyrénéennes Agriculteurs, et Magali Gasto-Oustrig, présidente de la communauté de communes Cœur et Coteau du Comminges. C'est une hypothèse à laquelle réfléchit le président de la République, une adaptation du pass sanitaire du fait de la forte baisse de l'épidémie dans certaines régions. Ainsi, celui-ci pourrait être assoupli dans les régions les moins touchées et maintenu dans les régions les plus touchées. Une idée peu familière dans notre pays jacobin et centralisé qui a le mot égalité chevillé au corps. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Eh bien, pour le moment, vous êtes 65% à dire non sur Twitter. Avec nous, Michel Ciara, médecin, membre de la Fédération des médecins de France, dont on connaît bien le président d'honneur, notre ami Jean-Paul Hamon. Bonsoir, Michel Ciara.
Bonsoir.
Alors, je vais citer Philippe Bilger qui a dit ça tout à l'heure. Est-ce que faire un pass sanitaire dans une région où il n'y a plus de Covid, ça n'équivaut pas à emmerder les Français, comme disait le président Georges Pompidou?
Oui, c'est une question un peu difficile à aborder comme ça, parce que quand même, le Covid, ce n'est pas terminé du tout. On a surtout en région PACA remarqué que nous sommes, au niveau des Bouches-du-Rhône tout au moins, en tête. On a le maillot jaune et on en a pas mal. Et dans nos cabinets, on a encore beaucoup de cas. Donc, il faut arrêter d'imaginer que c'est en train de se terminer tranquillement. Donc, pour certaines régions, elles attendent tranquillement la cinquième vague. Donc, le pass sanitaire, c'est vrai qu'on peut le moduler. Je pense que c'est dans l'air, mais certainement pas dans certaines mégalopoles, quoi. Ça me paraît compliqué.
Est-ce que vous ne trouvez pas, docteur, que depuis le début janvier 2020, le gouvernement a bien agi pour les vaccins, mais est-ce que, comme le disait Philippe David, l'état d'esprit jacobin n'a pas pesé lourd? Est-ce que, à certains moments, on n'aurait pas pu varier, diversifier les politiques mises en œuvre? Je le dis avec beaucoup de prudence et de modestie, je suis un profane par rapport à vous. Mais parfois, on aurait pu peut-être, me semble-t-il, faire au détail des mesures qu'on a prises en gros.
Alors c'est vrai qu'ils se sont distingués. Pour une fois, l'État jacobin a pris des décisions uniques pour les dom-tom en particulier. Donc, on peut imaginer la même chose pour certaines régions. Néanmoins, dans chaque région, il y a le problème des mégalopoles et le problème des petites villes qui ont payé un lourd tribut avec port du masque dans des villages où il n'y avait aucun cas, par exemple. Donc, c'est vrai. Nous, personnellement, nous aurions souhaité que l'ARS soit vraiment décentralisée, c'est-à-dire que ça parte de chez nous, du terrain, qui décide. En fait, non, ils prennent leurs ordres de Paris, c'est des courroies de transmission de Paris pour toute la province. C'est scandaleux dans cette période de décentralisation. Ça n'existe pas, la décentralisation dans ce domaine. Et effectivement, on a payé, je vous dis, très cher dans certaines régions, des contraintes que nous n'aurions pas dû avoir. C'est une évidence quand on voit les cas.
Christophe Laforgue.
Le président Fournier disait tout à l'heure que la ruralité représentait 30% de la population dans environ 80% du territoire français en termes de surface. Oui. Je pense que c'est plus judicieux, comme le dit ce médecin,
Michel Ciara,
de pouvoir l'adapter, par exemple, à la ruralité. On a subi le lourd tribut des mégalopoles. Alors là, je suis conscient que ce n'est pas propre à la région, c'est par rapport vraiment à la densité de population. Et c'est à ce moment-là où on peut retrouver un intérêt, parce qu'on a quand même emprisonné pas mal de Français pendant longtemps sur quelque chose qui aurait pu, je pense, être évité dans certains territoires, notamment des activités qui pouvaient avoir lieu sur un territoire très rural qu'on n'a pas pu faire. Et donc, il y a tout ce social autour qui rentre en jeu qui est quand même dommageable. On est en train de récupérer des activités. La ruralité est loin de tout et ce sujet est pour nous vraiment d'actualité. Les Pyrénées, comme aujourd'hui, on repasse avec 72 heures pour un test antigénique. Imaginez si on avait eu 24 heures comme c'était encore le cas. Il fallait se tester 4 fois en 4 jours pour venir aux Pyrénées. Nous, on avait voulu donner l'accessibilité en créant des centres antigéniques pour pouvoir donner la possibilité à tous. Il faut bien mesurer, comme disait M. Serac, il faut se rendre compte des décisions qui sont prises dans un endroit où on n'a pas la réalité concrète du terrain.
Christophe, pardon mon cher Philippe, une seconde. Vous permettez, Christophe, que je dise confiné à la place d'emprisonné, parce que je ne voudrais pas qu'on confonde les Français innocents avec les coupables.
C'est l'ancien avocat général qui s'exprime.
D'aucuns ont aussi parlé d'enfermement, même pour ça.
Docteur Sierra. Michel Sierra ?
Oui, votre question ?
Oui, la question, est-ce que quelque part, même la régionalisation, ça ne veut pas dire grand-chose ? Parce que, comme le disait très justement Christophe Laforgue, ici, on est en Occitanie, à Toulouse, il y a peut-être besoin de maintenir un pass sanitaire, parce qu'il y a une très grosse concentration de population, mais à Saint-Gaudens, ou à je sais pas moi, Bagnères-de-Luchon, c'est pas très loin d'ici, il n'y a peut-être pas de cas, et ça ne s'impose pas. Est-ce que ce ne serait pas... parce que les grandes régions, maintenant, elles sont quand même très vastes, plutôt à adapter agglomération par agglomération, ou communauté de communes par communauté de communes, etc. Parce que c'est vraiment le centralisme un peu fou quand même, même si là, on veut décentraliser.
Oui, mais enfin, si on parle du pass sanitaire, il y a des choses à dire quand même. Nous, on trouve ça, enfin, d'un point de vue médical, on trouve ça un peu comme une mascarade. Je m'explique. Le pass sanitaire vous permet en fait de véhiculer le virus partout. Si vous pesez bien les mots que je viens de dire, vous comprenez que je suis dans le vrai. C'est-à-dire que le pass sanitaire, effectivement, vu comme il est appliqué, est inapplicable dans un pays cohérent. Quand on ne demande pas des papiers d'identité qui vont avec le pass sanitaire, je ne comprends pas comment l'État peut continuer à se ridiculiser comme cela. D'autant plus que dans les métropoles, ben, ça fait beaucoup de mélanges de personnes qui se connaissent entre elles et qui s'échangent les passes sanitaires tranquillement. Hein, il faut le dire, c'est la vérité. Donc quand on entend
vous
ça, on se dit certains... Comment ?
Vous n'avez pas une anecdote à nous raconter, quelqu'un qui vous aurait raconté « j'ai pris le pass sanitaire de
moi, ma... » Moi, j'ai beaucoup de gens qui disent « moi, mon pass sanitaire, ben, c'est le nom de mon cousin, mais comme on ne me demande pas, en ce moment, je m'appelle Emmanuel. » Voilà, ça, c'est des choses que l'on voit couramment. Et quand je dis couramment, c'est courant. C'est-à-dire que les gens ne se font pas forcément vacciner, mais ils ont un pass sanitaire. Alors, moi, je veux bien, médicalement parlant, je condamne. Je pense qu'il faut vacciner un maximum de gens, malgré les difficultés que nous rencontrons chez certaines catégories de population. Mais il faut dire la vérité, le pass sanitaire est une gigantesque mascarade parce que c'est devenu un jeu, et c'est un jeu que tout le monde joue. Et j'ai des exemples très proches. Donc ça me fait drôle, parce que moi ça m'est arrivé accidentellement. Vendredi dernier, je vais au restaurant, on me demande mon pass sanitaire. Et comme j'ai celui de mon épouse qui n'avait pas réussi à l'enregistrer sur son téléphone, sans le vouloir, j'ai présenté celui de mon épouse. Dès qu'il y a eu le petit QR code, elle m'a dit « c'est bon, vous pouvez y aller ». Puis j'ai regardé, je dis « mais j'ai montré celui de mon épouse et personne ne m'a rien dit ». Bon, je suis rentré, ce n'est pas grave, j'avais le mien, donc ce n'est pas grave. Mais le soir, par jeu, j'étais dans un autre resto. Vous me dites « je sors souvent au resto », mais là, c'était
c'est
obligé.
Clair.
Et non, mais on était en travail, docteur. On était au travail à midi, on devait discuter, on n'avait que ce temps-là pour parler. Et le soir, pareil, donc je représente mon QR code. Et fatalement, comme je suis un peu joueur, j'ai dit « je vais remettre celui de mon épouse pour voir ». Sauf que mon épouse était présente. Elle présente le sien, je présente le sien, accidentellement, je dirais, puisque moi, j'avais le mien, ce n'est pas un problème. Eh bien, c'est passé aussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ce pays. On présente un QR code du voisin et ça passe. Donc comment voulez-vous que ce pass sanitaire soit cohérent et bien perçu par la population ? Rien que ce que je raconte montre que c'est catastrophique. On se base là-dessus pour empêcher la diffusion virale. En fait, pour moi, je pense que c'est strictement l'inverse. Je vous explique.
Oui, allez-y.
Je vous explique. Si vous êtes porteur du virus, malgré votre vaccin, vous allez passer grâce à ce pass sanitaire dans une belle salle de réunion ou un restaurant et vous allez disséminer pendant 48 heures votre virus sans vous sentir pourtant malade. Mais vous dites « je suis vacciné », a priori, c'est pas trop méchant. Sauf que ces personnes que vous allez contaminer malgré leur vaccination sont capables d'apporter ce virus à quelqu'un de fragile en sortant pendant 48-72 heures. Il y a un risque. Donc, c'est très grave. Ce pass sanitaire permet de transporter ce virus dans les salles. Moi, je trouve que ça n'est pas cohérent. Cette politique n'est pas cohérente.
Magali Gasto-Oustrique.
Oui.
Bien dans le micro.
Oui. La politique cohérente ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'on arrive. Même si mon actualité à moi depuis 3 semaines, c'est les Pyrénéennes, je crois qu'on est quand même à près de 50 millions de primo-vaccinés maintenant.
Oui, c'est ça. Soit voilà. Plus 70% de la population.
C'est quand même pas mal. Après, égoïstement. Oui, je dirais que ben, quand on est dans une région où les chiffres sont bons, ben, forcément, on n'a plus envie de se passer. Je ne sais pas, j'entends les propos hein, du docteur. Après, je me dis quand même que les Français ne sont pas tous des tricheurs non plus. Alors oui, ça peut arriver peut-être ponctuellement qu'on se passe le QR code. Mais maintenant, avec 50 millions de personnes vaccinées, j'ai espoir voilà, qu'on aille vers le mieux.
Justement, comme le disait Magali, on a fait, en clair, le pass sanitaire, c'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Maintenant qu'on a atteint plus de 70% de la population vaccinée, est-ce que quelque part, ça veut encore dire quelque chose ? Parce que, excusez-moi, on nous disait qu'on aurait l'immunité collective. Malheureusement, maintenant, c'est peut-être plus tout à fait vrai. Et est-ce que ça a encore un sens de le maintenir, vu la proportion de la population qui est vaccinée ? Et surtout, que c'est les gens à risque qui ont été massivement vaccinés. Docteur
oui,
Sierra.
Je comprends tout à fait votre problématique. C'est vrai, on a 70% des... Je crois que c'est plus de 50 millions. Maintenant, on y arrive. 50 millions de Français vaccinés. Moi, ce qui me soucie quand même, c'est que ce vaccin n'empêche pas du tout la diffusion virale. Il diminue la gravité. C'est un vaccin anti-réanimation. C'est tout. Ce n'est pas un anti-Covid, parce que les gens vont faire un Covid. Les dernières études le prouvent. Il y a quand même, sur un suivi rigoureux, on a quand même environ 10 millions de Français qui ont eu le Covid. Les chiffres, vous pouvez les vérifier, on est autour de 10 millions. Donc, vous avez 10 millions de Français qui ont eu le Covid. Moi, je retourne le problème, je dis, on a 55 millions de Français qui n'ont pas eu le Covid. Pas encore. C'est ça le problème, c'est que ce virus ne freine pas. Il est très contagieux, comme qui dirait, vous rentrez dans une salle, il y a des gens qui se mettent à éternuer autour de vous, vous finissez par l'attraper. Eh bien, c'est un petit peu ça. Et c'est ça qui fait peur, c'est qu'on a beau être protégé, on ne sait pas le degré de protection de ce vaccin pour éviter les hospitalisations, mais néanmoins, des vaccinés se retrouvent en réa. Il y en a quand même. Donc, on n'est pas sorti du problème. Il faut quand même continuer à avoir des gestes barrières rigoureux. Je ne pense pas que le pass sanitaire soit la solution. Je pense qu'il faut vraiment continuer à porter le masque, éviter de toucher les gens, éviter des grosses réunions. Je pense que c'est encore ça qu'il faut faire, mais ne pas les confiner, mais éviter les grosses réunions et de se toucher et de participer à des réunions dans des endroits fermés trop longtemps.
Ah bah nous, on est en plein air là. On part au 0800 26 300 300, direction Limay, dans les Yvelines. Bonsoir Patrick.
Bonsoir à tous.
Est-ce que vous pensez qu'il faut adapter le pass sanitaire aux régions ? Alors, si on le fait région par région, en Île-de-France, qui n'est pas franchement la région la plus rurale de l'Hexagone, vous allez garder le pass sanitaire longtemps ?
Bah, écoutez, moi, je viens d'écouter les propos du monsieur, là, juste avant. Du docteur. Et je pense qu'effectivement, la solution, elle est, parce que si vous regardez bien, les Français ont fait preuve énormément de civisme pendant le confinement, pendant toute cette période. Les Français ont été beaucoup plus sages qu'on ne le pense. Et je pense qu'effectivement, on arrive à un stade où le masque peut se généraliser. On peut aller à des terrasses de café avec des tables qui s'éloignent, avec un masque et de l'enlever au moment de consommer. Et ça va pas changer beaucoup la face du monde par rapport à ce pass sanitaire qui peut effectivement à la longue s'étioler, parce que je pense que les gens de moins en moins sont regardants, les gens se lassent. Donc effectivement, si on fait le rapport des gens qui sont vaccinés et avec cette prévention et cette prudence que les gens ont quand même, parce que les Français en sont conscients, je pense que voilà, il faut partir sur cette voie-là.
Justement, mais c'est très intéressant ce que vous dites, Patrick Delimet. Docteur Ciara, le vaccin, ça protège dans sa grande majorité les formes graves, mais il y a aussi la vie sociale, la vie humaine. Vous dites garder les gestes barrières, mais ça fait des mois que souvent les gens n'embrassent plus leurs enfants, n'embrassent plus leurs parents, n'embrassent plus leurs frères et sœurs, leurs amis. Est-ce que psychologiquement, c'est pas aussi une peine et une souffrance et des conséquences que ça va avoir sur la santé des gens qu'il faudrait pas oublier?
Je pense surtout à la santé mentale, parce que vous avez raison. On a beaucoup de gens qui se sont mis sous antidépresseurs pendant cette période. Il faudrait analyser avec le recul maintenant les consommations de psychotropes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont des comportements beaucoup plus agressifs qu'avant. C'est la vie sociale nous manque beaucoup. Nous sommes des animaux grégaires, comme on disait. Il faut qu'on se rassemble, qu'on discute, qu'on évalue le pour et le contre, qu'on, diplomatiquement, que nous ayons des relations les uns avec les autres. Or, ce Covid nous a coupés de ces relations, de nos familles. Les familles sont divisées sur l'histoire de la vaccination, du pass, etc. On a créé des conflits. Et au niveau du travail, le télétravail en a créé d'autres. Je suis avec d'autres médecins au contact de médecine du travail et on a des problèmes parce que les gens ne sont pas adaptés à travailler chez eux, et etc. Quand nous voyons ce qui se passe, on s'aperçoit que la situation est loin de s'améliorer. Et voilà, donc ça pose un problème au niveau social, ça c'est évident.
Philippe Bilger, une question courte pour une réponse courte.
Docteur, récemment, on a évoqué le besoin d'une troisième injection et ensuite, cette obligation a été discutée. Qu'en pensez-vous techniquement? Est-ce que c'est souhaitable ou non?
Rapidement.
C'est plus ou moins souhaitable. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait s'adresser aux populations les plus morbides, je dirais, ceux qui ont vraiment plus de 70 ans, 75 ans, mais taper sur une troisième dose à partir de 60 ans, pour certains, ça me paraît bizarre, parce que ces gens-là font de la rando tous les jours, vont dans des salles de sport, n'ont pas vraiment de raison de craindre ce Covid, parce qu'ils sont déjà protégés par les deux injections. Il ne faut pas se leurrer. Mais la troisième est utile pour les immunodéprimés. Voilà, je fais court. C'est le plus logique.
Parfait,
les autres
docteur.
N'ont Merci. Pas besoin de ça pour avoir un pass sanitaire. Donc, qu'ils s'en abstiennent.
Merci, docteur Michel Ciara, médecin, membre de la FMF, la Fédération des médecins de France. Pardon. Verdict sur Twitter. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Eh bien, c'est la majorité des deux tiers, comme on dit pour les réformes constitutionnelles, puisque vous êtes 66% à dire non sur Twitter. Dans quelques instants, avec l'actu en région de Philippe Rossi, ça va pas être en Occitanie, mais pas très loin, puisqu'on va prendre la direction des Landes. On se retrouve dans quelques instants avec les Vraies Voix de Sud Radio.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Christophe Laforgue et Magali Gasto-Oustric. Et c'est l'heure de l'actualité en région, mon cher Philippe Rossi. On va pas très très loin de Saint-Gaudens, direction Mont-de-Marsan ce soir.
Exactement, Mont-de-Marsan dans les Landes, hein, où les chasseurs vont manifester demain. 10 000 chasseurs des Landes et de tout le Grand Sud-Ouest sont attendus donc demain à Mont-de-Marsan. Ils se mobilisent contre un arrêté, l'arrêté du Conseil d'État. Voici ce qu'il dit, hein, cet arrêté, il annule pour les Landes les autorisations ministérielles de chasse à la Pente et à la Matholle de l'Alouette des Champs. Voilà les chasses traditionnelles interdites donc par le Conseil d'État. Les chasseurs qui sont soutenus par nombreux élus du territoire, dont le maire de Mont-de-Marsan d'ailleurs. Patrick Dutouillat est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Patrick. Vous êtes à Tartas, hein. C'est entre Dax et Mont-de-Marsan. Vous allez manifester demain. Je rappelle que vous êtes chasseur, Patrick. Le Conseil d'État interdit donc la chasse à la Pente, à l'Alouette. Vous manifestez pour mettre la pression sur le gouvernement demain? Puisque finalement, oui. C'est lui qui aura le dernier mot.
Oui, bien sûr, c'est pour mettre la pression sur le gouvernement. J'espère que nous serons nombreux, mais malheureusement, je pense que ce sera un échec. Le gouvernement, on s'aperçoit qu'ils veulent revenir en arrière, mais c'est pour mieux rebondir l'an prochain. Ce n'est que pour... c'est politique, c'est tout. On voit bien que le président est à la recherche des voies électorales. C'est pour ça.
Ouais, donc vous dites le gouvernement va autoriser ces chasses traditionnelles le temps de la campagne présidentielle. C'est ça, en fait, au fond.
En fait, c'est un petit peu ça. Parce que de toute façon, ils ne reviendront pas en arrière. C'est pas la première fois que ça se produit. Nous avons eu les chasses aux petits oiseaux. Nous avons eu les chasses aux pinsons, à l'ortolan dans le passé qui ont été... Ça s'est passé exactement pareil. Et ils sont pas revenus en arrière. Et là, ça continuera dans le même contexte.
Ouais. De leur côté, les associations anti-chasse se sont rassemblées aujourd'hui devant le ministère de l'écologiste et à la mi-journée. Ils dénoncent des pratiques cruelles. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir sur Sud Radio, Patrick Dituya?
Mais moi, je leur dis qu'ils n'y connaissent rien, parce que les pratiques cruelles, c'est pas du tout cruel. La chasse que nous pratiquons, c'est une chasse raisonnée, elle est comptabilisée, le nombre d'oiseaux pris, c'est tout comptabilisé. En plus, on ne parle pas n'importe quel oiseau, on peut le relâcher, ce ne sont pas des méthodes qui tuent. Voilà, donc c'est sélectif, c'est une méthode de chasse sélective. Mais ils n'en ont pas qu'après la chasse, ils en ont après tout. Ils ne veulent plus de chasseurs, c'est sûr, mais un jour ils auront des problèmes avec le gros gibier, parce qu'ils se plaindront qu'ils auront des sangliers et des renards dans les villes, et là il n'y aura plus personne pour les attraper. Donc nous vivons une époque où nous sommes dirigés par des gens qui n'y connaissent rien, des bobos écolos, qui sont devant leur ordinateur, qui veulent tout interdire, mais qui ne proposent rien à la place.
Philippe Rossi, on est avec vous en Nouvelle-Aquitaine, mais en Occitanie, ça fait réagir notamment Christophe Laforgue et Magali Gaston-Oustry, qui aiment bien la chasse, je crois.
Oui, moi je suis chasseur, mais la ruralité et la chasse traditionnelle, c'est comme la ruralité. Pour pouvoir en parler, il faut la comprendre. Les chasses traditionnelles, quand on les a vécues de père en fils, que c'est une tradition. Et pour pouvoir en parler ou se justifier de l'interdire ou de trouver ça cruel, il faut la comprendre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de violence et que la violence ne vient pas forcément des chasseurs. Imposer les idées qu'on a, c'est une chose. Moi, je pense qu'on doit respecter celle de tous, effectivement. Les chasseurs ont très une mauvaise image parce que je trouve que les chasseurs sont les premiers régulateurs de gibier. Et quand il s'agit de réguler, on sait le faire. Donc c'est le même principe que la réalité, je le répète, pour pouvoir en parler, il faut connaître et comprendre et après on juge.
Magali Gaston-Oustry, on rend la parole à Patrick Dituya.
Donc je ne dirai pas plus, enfin Christophe a très bien parlé. J'ai un mari chasseur, je sais comment ça se passe. Et voilà, les anti-tout, je crois que...
Philippe Rossi, Michel Dituya.
Oui. Ben oui, Patrick Dituya, donc les chasseurs qui vont manifester demain à Mont-de-Marsan contre l'interdiction des chasses traditionnelles dans les Landes. 10 000 manifestants sont attendus, ça pourrait être la plus importante mobilisation de ces 20 dernières années. Ça se passe donc demain dans le département des Landes. Merci à vous Patrick Dituya, je vous rappelle que vous êtes chasseur, voilà, du côté de Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup à vous. Jusqu'à 19h20, on va retrouver les vraies voix avec deux nouvelles vraies voix. On va avoir Philippe Rossi, vous êtes toujours avec nous?
Toujours.
Vous connaissez, je vais citer une marque américaine ici, je vais me faire lyncher, McDonald's.
Bien sûr, très bien. Oui, qui ne
Et est-ce
pas.
Que vous connaissez, dans le sud-ouest, alors là c'est connu, le Macarel?
Non, alors non, ça non.
Et bien le Macarel, alors Macarel c'est un juron en occitan, ça veut dire un peu nom de Dieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Enfin,
eh ben oui, ben, c'est un juron
vous
occitan.
Confiez,
Et c'est vous qui disiez arrêtez d'emmerder les Français tout à l'heure, je vous en prie.
C'est Pompidou.
Oui, que vous êtes empressé de citer. Et donc, il a créé le Macarel, c'est le hamburger avec de la vache gasconne. Alors les Toulousains et les gens du sud-ouest connaissent, il va venir en parler, c'est Philippe Lacube. Il est aussi président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Mon petit doigt me dit qu'on va en déguster sur le stand. Et on aura avec nous Manon Bergès, responsable de l'Office du tourisme de Saint-Gaudens. Si vous voyez le soleil sur les montagnes pyrénéennes, c'est magnifique. On se retrouve dans quelques instants.
En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
En direct et en public depuis Saint-Gaudens, depuis les Pyrénéennes. Alors là, Philippe Bilger, il vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire qu'il ne connaissait pas. Absolument. La vache gasconne des Pyrénées.
Et grâce Dites-nous, à notre ami invité.
Alors notre ami, je présente nos invités, Maël Lacube, qui est le fils du président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Son père a créé le Macarel, on en a parlé juste avant, on va en parler, éleveur de vaches gasconnes aux cabanes à la frontière andorrane. Et on a avec nous Manon Bergès de l'Office du tourisme de Saint-Gaudens. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors Philippe Bilger, décrivez-nous la vache gasconne, vous connaissiez
je
pas ça.
Je ne saurais pas la décrire, mais j'ai appris par Maëlle à quel point elle était une belle vache. Et comme elle était propre un peu à cette région, et j'en profite pour dire à Maëlle donc, que j'ai le plaisir de rencontrer... qu'elle a été très
non, c'est
utile.
Manon, hein.
Manon, pardon. Manon,
Maëlle, oui, Maëlle. Maëlle, il est barbu, Manon, c'est une femme. Donc,
à Manon, pas barbu, donc.
Pas encore.
Et qu'elle a été très utile, puisqu'elle m'a permis de faire un TikTok cet après-midi.
Ah bah, le TikTok de Philippe Bilger a donc été réalisé par Manon Bergès. Ça restera peut-être pas comme un film de François Truffaut, mais ça méritait d'être dit, n'est-ce
pas? Mais attendez, vous êtes
d'accord. C'est le début d'une grande aventure, on ne sait pas.
On ne sait pas, peut-être qu'il vous allez devenir une star de cinéma. Alors justement, Maëlle Lacube, ces vaches, elles paissent du côté de la frontière andorrane, en pleine montagne. Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Moi, je trouve le goût est sublime, la texture est extraordinaire, et pourtant, c'est de la basse-côte, qui n'est pas la pièce la plus noble. C'est pas de l'entrecôte, c'est pas du filet, c'est pas du faux filet, c'est pas de la côte de bœuf.
La basse-côte, de base, c'est un morceau qui n'est pas forcément vraiment valorisé. On est plutôt, généralement, les gens valorisent l'entrecôte, ils ont vraiment que ce produit en tête, hein, mais la basse-côte, c'est aussi un mets de tout aussi bonne qualité. Et par rapport à la vache gasconne, on l'a principalement aussi dans notre département, parce que la spécificité de cette race, hein, c'est qu'elle est rustique. On a un territoire quand même très
montagneux. Alors c'est quoi une race rustique?
Une race rustique, c'est-à-dire que...
Il n'y a pas de race urbaine, parce qu'on n'a pas trop de, on n'a pas trop de troupeaux de vaches sur l'île de la Cité. Hein.
Ah bon?
Non. Heureusement que vous travaillez dans le tourisme.
Non, mais ce qui est intéressant avec cette...
Pas à Paris.
Avec cette vache, quand je dis rustique, c'est que ça s'adapte très, très bien au territoire, c'est-à-dire aux basses températures, aux températures... Hein. C'est un animal qui a un gabarit qui est plutôt plus petit que les autres, par exemple, plus légèrement petite qu'une blonde.
Une blonde d'Aquitaine, donc.
Voilà, par exemple.
Très bonne bête à viande
également.
Très bonne bête
à viande aussi. Mais
on avait Jérôme Adou qui, lui, est éleveur de blonde d'Aquitaine, le président du salon.
D'accord. Et donc, voilà, donc après la gasconne, parce qu'elle s'adapte très bien au milieu ruraux, notamment à la montagne.
Non, mais alors justement, votre père, il a lancé quelque chose qu'on connaît dans le sud-ouest, mais que les gens doivent connaître ailleurs. Il manque pas d'esprit, il manque pas d'humour. Vous aussi, vous avez le regard malicieux. Il a lancé le Macarel. Alors le Macarel, en occitan, c'est tous les gens qui connaissent l'Occitanie connaissent ce mot. C'est un juron, c'est un peu nom de Dieu.
Oui, c'est nom de Dieu. Oui.
Philippe Bilger ne prend plus son air outré, c'est parfait.
Mais vous avez remarqué, Maëlle, à quel point il devient lyrique lorsqu'il parle de la vache gasconne.
Ah mais je le suis toujours.
Alors ça n'est pas du tout son genre.
Ah mais si. Alors justement, c'est quoi le Macarel? C'est le McDonald's de gascon occitan?
C'est ça, on va dire, c'est un peu l'anti-McDonald's. C'est mon père qui l'a créé il y a à peu près 20 ans de cela.
Ah,
et donc on a continué à le garder et maintenant on le sert dans d'autres restaurants. Parce qu'aussi, avant d'être restaurateur, nous sommes aussi éleveurs, du coup.
Oui.
Et donc, tous nos produits, parce qu'on fait aussi du porc noir en plein air.
Du porc noir de Bigorre?
Non, pas du porc noir de Bigorre.
C'est
une appellation.
Oui, parce que vous n'êtes pas en Bigorre, vous êtes dans l'Ariège.
C'est du porc noir gascon, du coup. C'est une race. Et l'intégralité de nos produits, on le fait tout en vente directe et dans le restaurant, et notamment aujourd'hui sur la foire de Saint-Gaudens.
Et le Macarel, alors, ça se présente comment?
Alors, c'est un pain frais du boulanger avec une tonne de vache fermière et un steak haché de bœuf gascon de notre production.
Et c'est tout du produit des Pyrénées?
Tous les produits des Pyrénées, exactement.
Le pain, la tome, le steak?
Intégralement.
Hein, ça doit être léger.
C'est ça, tout un finesse.
Philippe Bilger, on peut en déguster ici?
Bien sûr, vous pouvez en retrouver.
Philippe Bilger, on va vous faire déguster un macarel. Vous
ne
connaissez
pas. Pourquoi vous dites-vous alors que vous ne pensez qu'à ça?
Non, je ne pense pas qu'à ça. Là, je pense à la basse-côte, cher ami. Alors, justement, on va faire la liaison avec le tourisme, Manon Bergès. Vous travaillez à l'Office du tourisme de Saint-Gaudens. Le tourisme agricole, le tourisme rural, ça marche bien en ce moment?
Oui, vu le contexte actuel, effectivement, les gens veulent revenir vers la terre et revenir vers, vers le tourisme vert. Donc, effectivement, on est en plein boom de revenir à la visite de ferme, vraiment au camping, même à la ferme, dans les gîtes ruraux. Le tourisme vert est totalement une destination à part entière à présent. Ah oui, et tout à fait.
Du pas très loin d'ici, sur la côte basque, les Biarros se sont beaucoup plaints de l'arrivée, enfin les Biarros, les Basques on va dire, hein. On salue d'ailleurs nos amis basques, se sont beaucoup plaints de l'arrivée massive des Parisiens qui maintenant avec le télétravail et le TGV viennent à Biarritz, ont fait exploser les prix de l'immobilier.
Absolument.
Est-ce que vous, dans le Comminges, vous avez eu, alors peut-être pas autant de monde qu'à Biarritz, mais des gens qui sont revenus en se disant « je peux faire le télétravail, en, une demi- en 30 minutes je suis à Tarbes, je prends un avion, je suis en une heure à Paris, en 40 minutes je suis à Toulouse, je prends un avion, je suis en une heure à Paris ». Est-ce que vous avez vécu ça, du retour de ce qu'on va appeler maintenant, ce qu'on appelle, c'est un néologisme, les rurbains?
Oui, mais c'est ça, mais on a eu un retour à cause de la crise de Covid notamment, qui les gens sont venus télétravailler, ont découvert la région, ont loué des gîtes pour se mettre au calme et en télétravail. Bon, après, on n'a pas un grand réseau, hein, donc certains étaient déçus, forcément.
Mais que des gens originaires du coin qui vivaient à Paris, à Lyon ou à Marseille.
Non, pas du tout. Et il y a même des gens qui ont acheté des maisons sur photos et vidéos dans le coin sans les avoir vues et sont venus vivre ici et s'installer ici. C'est arrivé en masse et il y avait déjà beaucoup de néo-ruraux, mais là encore plus depuis ces deux dernières années. Oui,
Maël Lacuve.
Ça se fait énormément, même par exemple dans mon département qui est l'Ariège, qui est très peu connu, pas forcément extrêmement visité.
D'ailleurs, l'Ariège, je ne sais pas si le slogan est encore le slogan d'il y a quelques années, c'était l'Ariège, la terre courage.
C'est ça.
Absolument.
Ouais, le problème, nous aussi, on a beaucoup de gens du coup extérieur département, surtout des citadins et des urbains qui achètent des maisons. Moi, je trouve ça dommage, c'est en train de tuer la ruralité, quoi. Du coup, on a des foyers à l'année qui deviennent...
Maël, vous avez l'air tellement heureux avec cette merveille de vache gasconne. Est-ce que ça veut dire que ceux qui pratiquent cet élevage, ces activités, n'ont plus de difficultés aujourd'hui?
Il y a des enjeux politiques aussi, il y a des difficultés. Normalement, bon, on va parler un peu aussi avec les prédations. Après, généralement, quand même, l'élevage se porte plutôt bien quand même.
D'accord. Mais les prédations, c'est quoi? Les loups, enfin, c'est,
les ours.
C'est
les ours.
Principalement, oui, les ours.
Les ours.
Oui, parce qu'ils ont réintroduit l'ours et beaucoup d'agriculteurs ne sont pas très contents de ça parce qu'ils ont eu des troupeaux.
Tout à fait.
Il y en a beaucoup en Ariège d'ailleurs.
Il y en a pas mal en Ariège. Ouais. Il y en a pas mal.
Et vous avez perdu des vaches, par exemple?
Non, nous, on a eu beaucoup de chance. On n'a pas perdu d'animaux. Mais par contre, on a des amis à nous, des proches qui ont perdu pas mal d'animaux.
Ça doit être terrible, ça. Tu vois.
Manon Bergès, aujourd'hui, le tourisme qu'on vient faire dans le Comminges, par exemple, c'est quel tourisme? Alors, c'est les randonneurs, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire du ski l'hiver, on vient en gîte l'été. C'est très multiple le tourisme qu'on peut
faire multiple,
ici. Il y a
c'est
du tourisme
varié.
D'été, d'hiver, de printemps, d'automne.
Oui, en fait, on peut tout faire dans le Comminges parce qu'il y a forcément, on a des hautes montagnes avec trois stations de ski. Il y a le thermalisme également. Et ici, dans la plaine, avec cette belle vallée de la Garonne, il y a beaucoup de patrimoine. Il y a les coteaux de Gascogne, plus sur les secteurs de l'Isle-d'Odon, Boulogne et Aurignac. En repartant sur Toulouse.
Oui.
Donc là, c'est plus aussi un tourisme de campagne, voilà, un peu. Donc en fait, on peut tout trouver, mais c'est beaucoup en rapport avec la nature et quand même le patrimoine et les petits villages sont là aussi.
D'accord. Beaucoup de touristes d'Occitanie ou plutôt de quelle région?
Eh bien, d'Occitanie, mais on a eu cet été beaucoup de l'ouest de la France, notamment beaucoup de Bretons, de la région de Nantes. Des Bordelais, voilà, tout l'Ouest France. Ouais, ouais,
et de temps en temps, vous avez, je ne sais pas, des Provençaux, des Auvergnats, des Alsaciens,
ça
des Ch'tis.
Ça peut arriver, bien sûr, oui, tout à fait. Mais après, voilà, bon, avant le Covid, il y avait quand même... on a eu des Espagnols, beaucoup quand même.
Ils viennent souvent
sûr,
en France,
des Hollandais, région, Belges, beaucoup.
Une région très accueillante, les gens qui viennent de l'extérieur, des autres.
Je ne pourrais pas vous le confirmer.
On nous dit
un peu chauvin, après, une fois qu'on a les gens dans le cœur, ils ne partent plus. Oui, ça c'est sûr.
C'est vrai, ça c'est quand même une chose importante. Ici, on sait magistralement accueillir les gens. Comment est-ce que vous expliquez ça, Maël Lacuve? Moi, je vois l'accueil qu'on a reçu ici avec Philippe Bilger.
Ah oui.
C'est comme si on connaissait tout le monde depuis 30 ans, depuis 1984 et le premier salon.
Moi, je dirais tout simplement que c'est culturel. C'est quelque chose qu'on a gardé, qui s'est transmis.
Les gens sont vrais, c'est ça?
C'est assez latin. Quand même, on est quand même du... Voilà.
Chaleureux.
Chaleureux. Et en fait, on rend ce qu'on nous donne. Si les personnes sont simples et vraies, nous, on a juste qu'à rendre... Voilà.
Souvent, ouais. On vous le rend.
La simplicité et l'authenticité, vraiment, ouais, de ce territoire.
Justement, vous êtes tous les deux nés dans la région ou vous y êtes revenus ou comment ça s'est passé pour vous? Maëlle, vous, je pense que vous êtes nés dans la région, comme votre père a créé le Macarel et qu'il est président de la Chambre d'agriculture d'Ariège. Je pense que vous n'êtes pas né à Dunkerque.
C'est clair. Non, je suis né à Foix, ouais, je suis né à la région.
Effectivement. Et vous êtes du coin de Saint-Gaudens?
Je suis né là.
Ah oui, juste derrière. Ouais. Ah oui, il y a l'hôpital qui est à, voilà, à combien, un kilomètre, ouais, d'ici.
Oui, je suis né là, je suis parti, mais je suis revenu.
Et après, vous êtes parti pour faire vos études. Tout comment ça s'est passé pour vous?
Du coup, moi, je suis allé dans le Gers faire mes études. Hein. Je viens de terminer un BTS.
D'accord. Et vous, Manon?
Et moi, je suis parti pas loin, à Toulouse, à la capitale. Et
d'accord.
Faire des études dans le tourisme, justement. Et j'ai un peu bougé. Je suis resté une dizaine d'années à Toulouse et travaillé à l'office de tourisme à Toulouse aussi.
À Toulouse, oui. On salue les Toulousains, d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. Et voilà, je suis revenu sur la terre promise, la terre des ancêtres, quoi.
Gère, quand vous entendez ça, on parle de l'époque de la mondialisation. Vous savez, je sais que vous aimez bien Starmania dans Monopolis. Vous savez, quand on chante...
J'aime pas du tout.
Vous n'aimez pas du tout Starmania? Ah bah vous avez mauvais goût musicalement.
Moi, alors... c'est Jean-Jacques Goldman. Je
oui,
vous l'ai dit.
Vous, à part
fois.
Goldman, de toute façon, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Je crois.
Les Beatles.
Brassens aussi.
Brassens et les Beatles.
Oui. Oh, non, va, mais quand ils chantent...
Et vous, quand vous chantez?
Ah bon, merci, mais je ne chanterai pas.
Bon,
dans Monopolis, il dit « Il n'y aura plus d'étrangers, on sera tous des étrangers dans la ville de Monopolis ». Quand vous entendez des jeunes, aujourd'hui, on disait « Maintenant, on est citoyen du monde, on vit à New York, on vit à Toulouse, on vit à Tokyo ». Des jeunes qui disent « Moi, je veux retourner sur la terre de mes ancêtres », ça vous fait quoi?
Alors, pas forcément des ancêtres. Moi, c'est l'Alsace plutôt. Mais je peux comprendre ce désir qui devient de plus en plus net aujourd'hui de revenir à un mode de vie, à une qualité d'existence où on a l'impression de goûter bien mieux les valeurs humaines. Et oui. Alors, je ne serais peut-être pas capable, Maëlle, de venir là et de vivre tout le temps, parce que je suis gangrené par la vie un peu, mais je comprends ce désir du retour. Tout à l'heure, quelqu'un, je parlais du rugby, je disais, c'est formidable cette région. Il m'a dit, mais c'est le sud-ouest. Ouais. Tout
mais
était dit.
C'est
tout
exactement
était...
ça, c'est exactement ça. Vous aimez le rugby?
Oui, j'en ai fait pendant pas mal d'années. Ouais.
Vu votre gabarit, je parie que c'était pilier.
Tout à fait.
Voilà.
J'allais dire, vous t'as l'honneur. Ça ne m'étonne pas. Vous avez joué au rugby, vous, Manon?
Non.
Non? Même pas, pas au rugby féminin, ça ne vous tente pas?
Ça me tenterait, ouais. Bah, j'aime bien la pêche qu'il y a, mais non.
Parce que maintenant, vous savez que Sud Radio, c'est la station du rugby.
Oui.
C'est l'heure du rugby avec Alexandre Priam. Salut Alexandre.
Salut tout le monde, salut les vraies voix.
Alexandre.
Alors, c'est la pro des deux ce soir. Et alors, tu vas teaser également l'émission de demain, parce que demain, émission délocalisée dans le Grand Sud avec Sud Radio. C'est toi qui vas l'animer, notamment avec Philippe Panguero. Et ce soir, un menu de gala, c'est un menu de vache gasconne des Pyrénées, tiens d'ailleurs,
ouais.
En pro des deux.
Ouais, 7 matchs ce soir.
On a la chance de la déguster. Hein.
Et bah oui, ouais, profitez alors, Philippe. Mais attention quand même, hein, c'est pas super fit. 7 matchs ce soir, avec 6 matchs dans le multiplex, hein, Montauban-Béziers, Rouen-Colomiers, Aix-en-Provence, Narbonne, Oyonnax, Carcassonne, Mont-de-Marsan-Vannes, Agen-Bourg-en-Bresse. Et puis ce soir, ce match entre Bayonne et Nevers. Et effectivement, demain, on sera en direct du Twickenham Pub de Castelnaudary, de 15h à 23h avec des invités exceptionnels, hein, vraiment, soyez au rendez-vous. On diffusera évidemment toutes les rencontres de cette troisième journée du Top 14 seront sur Sud Radio, et on aura, je vous promets, hein, je ne peux pas vous en dire trop encore, mais on aura énormément d'invités et de très très haut niveau, des invités prestigieux.
D'invités prestigieux, et ça se passera à Castelnaudary, et ici c'est jusqu'à dimanche, mm-hmm. Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, vraiment, il faut venir à ce salon qui est extraordinaire. Les enfants adoreront, ils verront les vaches, les moutons, etc. Il y a tout, c'est le salon de l'agriculture de Paris, mais à Saint-Gaudens. Merci beaucoup, mm-hmm. Manon Bergès de l'Office du Tourisme de Saint-Gaudens.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Maëlle Lacube. Bon, si j'ai bien compris, vous demain, Alexandre, vous êtes au Cassoulet, nous on continue à la Gasconne des Pyrénées.
Et on fait ça, suite, on fait ça.
Et tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller et Philippe Rossi.